Salut à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Alors, aujourd'hui, je suis accompagné, et une fois n'est pas coutume, de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu aujourd'hui ?
Salut, ça va très bien. Et toi, Nico, comment tu vas ?
En vacances, je vais profiter de la neige, des sapins de Noël et des guirlandes pour attendre le Papa Noël et peut-être avoir de nouveaux cadeaux Chrome OS et Chromebook sous le sapin. Donc ça va être plutôt cool.
Okay, bah...
Et toi, tu attends des choses en particulier sous le sapin ?
Non, je me suis pris super tard pour mes cadeaux de Noël, donc j'espère que tout va arriver à temps. Mais il fait ouais. Noël, c'est sous la pluie ici, donc voilà, c'est pas forcément. Il y a de la neige dans la montagne au loin, mais ici en plaine, on a beaucoup de pluie, donc va falloir attendre encore quelques semaines avant d'avoir de la neige, je pense.
Je te mets tout ça dans un petit peu de flocons de neige dans un mail et je te l'envoie, tu vois, ça va être super.
Ça marche.
Tu la mets bien au frigo, hein, par contre. Hein. Alors, on va parler plein de choses aujourd'hui. On va parler de Chrome, de Chromium et compagnie. On va parler des nouveautés de Chrome OS avec des petites choses assez intéressantes qui rapprochent les systèmes d'exploitation les uns des autres. Évidemment, tu connais ma passion du jeu vidéo, donc on va parler de Stadia et des nouveautés arrivées en décembre. Mais pour accompagner tout ça, on va glisser un petit peu d'applications Google, la gestion, on va naviguer à travers Google. Et puis après, on parlera gros sous, oui, parce que ça y est, j'ai décidé de faire des achats en grosse quantité avec beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, c'est peut-être pas moi, mais on verra ça un peu plus tard. Hein. tu m'aideras à participer à ces financements.
Ok, ouais, je regarde de loin.
Ouais, de... Alors... Chrome, Chromium et compagnie. Alors, on en parlait à la préparation. Tu m'as expliqué que Chromium débarquait partout et même ailleurs que chez Google. Tu peux m'en dire un petit peu plus ?
Ouais, alors, on vous en avait parlé déjà il y a quelques mois quand ça avait été annoncé. On vous avait expliqué que Microsoft, en gros, non seulement abandonnait Microsoft Internet Explorer, donc ça fait un petit moment, mais du coup, pour Edge, donc son nouveau navigateur, en fait, ils ont jeté l'éponge, en fait, et ils se sont dit qu'ils n'avaient pas la force ou l'envie ou l'intérêt de continuer à développer leur propre moteur de navigateur web. Et donc, du coup, ils se ralliaient à Chromium, qui devient le principal moteur de navigateur aujourd'hui. Faut savoir qu'en fait, tous les navigateurs, donc il y a pas mal de navigateurs, on vous en parlera de quelques autres, en dehors de Chrome, d'Opera et... je dis Opera, mais en fait non, Opera personne connaît, ou même de Safari et de Firefox. Il y a quand même un certain nombre d'autres navigateurs, mais la plupart des navigateurs aujourd'hui utilisent Chromium, qui est donc la version open source de Chrome. Microsoft a décidé lui aussi d'utiliser Chromium. Donc, si on compte ceux qui sont encore en vie aujourd'hui, les navigateurs indépendants, on va dire, qui n'utilisent pas Chrome. Il reste Safari de Mac, donc disponible uniquement sous Mac a priori. Je pense qu'à une époque c'était disponible sous PC, mais c'est plus le cas. Hein.
Ou Android, Safari. Hein.
Sous Android.
Il me semble qu'il. Ouais, non. Il me semble. Hein, je suis pas. Attends, je suis en train de faire un test en live. Hein.
Alors là, ça m'étonne.
Mais il me semble que maintenant c'est pas eux. Non, c'est Safari, mais c'est pas eux.
Ouais, non, je pense qu'il est. Je sais pas. Je pense qu'il. En tout cas, c'est clairement le navigateur principal sur Mac. Il est disponible sous Windows aussi. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui utilise Safari sous Windows. Et puis il reste Firefox qui donc a son propre navigateur, son propre moteur de navigateur. Mais voilà, sinon c'est tout. Sinon tout le monde utilise Chromium, y compris donc Microsoft. Alors qu'est-ce que ça change, vous allez dire ? C'est une bonne question. A priori, pas énormément de choses. Ça rend Microsoft contributeur du code open source de Chromium, ce qui est assez ironique quand on y pense. Et d'ailleurs, Microsoft a déjà proposé un certain nombre de contributions. En termes de mise à jour, ça change aussi un petit peu puisqu'ils changent leur processus de mise à jour. Donc, vous n'avez plus besoin de mettre à jour, en gros, toutes les mises à jour Windows qui arrivent d'un coup et qui vous bloquent et qui vous empêchent d'utiliser votre ordinateur. Je pense que ça continuera à exister dans une certaine mesure, mais par contre, ce sera plus forcément par ce biais-là que Edge se mettra à jour. Et il se mettra à jour automatiquement par lui-même, un peu de la même façon que Chrome aujourd'hui se met à jour. Je sens que tu veux intervenir, Nico.
J'étais en train de réfléchir. Oui, Microsoft est dans le monde libre. Ils se lancent à taquet dans le monde libre. C'est un truc de fou.
Ouais.
Et on en avait parlé, je crois, mais l'une des premières contributions que Microsoft a fait, c'est d'expliquer, enfin, c'est d'intégrer. Alors, je sais pas exactement les termes. Je m'en excuse d'avance, mais ils ont expliqué comment améliorer la vitesse ou la réactivité ou la gourmandise de Chrome.
Ouais.
Donc ça m'a fait rire quand Windows, qui met à peu près 3 jours à démarrer, explique à Chrome comment aller plus vite. Quoi. Moi, ça m'a fait sourire ce jour-là. Et c'est déjà implémenté dans Chrome. On le voit pas, enfin au quotidien, on le voit pas forcément, mais c'est déjà dans Chrome là actuellement. Et grâce à Windows, en fait, nos Chrome sont plus rapides qu'avant l'arrivée de Windows. Donc ça, c'est plutôt sympa en fait. Je trouve.
Ouais, ils ont ouais, c'est ça, c'est des questions de performance en fait. Et donc du coup, bah oui, c'est ça. Ils contribuent au code source de Chromium, et donc ils le rendent meilleur en fait, pour le dire de façon simple. Donc voilà, donc ouais, vas-y.
Mais c'est pas les seuls à avoir à intégrer Chromium, comme tu me disais, puisque je te fais une transition là pour aller sur l'autre, parce que j'ai envie d'en parler, parce que ça m'a fait sourire, je te l'ai dit, j'étais tellement content. Donc Microsoft lance Edge, et d'ailleurs c'est quand qu'il le lance Edge? Il n'était pas déjà lancé?
Non, en fait il était en bêta pendant un moment, mais ça y est là, il arrive officiellement
début janvier.
Genre je sais plus exactement les dates mais ouais c'est
et
ça
c'est début d'année,
début ouais, janvier ouais le 15 janvier troisième semaine ouais. de janvier en gros tout le monde commencera à voir la nouvelle version de Edge ouais donc vas-y excuse-moi je t'ai cassé ta transition.
Tout le monde, pas tous, hein. Il faut être sur Windows 10. Alors, si vous êtes sur Windows 7, amusez-vous à faire la mise à jour Windows 10. Vous allez voir, c'est assez amusant. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui m'a gentiment invité à un repas à midi. Je crois que c'était un guet-apens, je suis pas sûr. Mais, et puis, au plein milieu de l'apéro, on fait, oh, au fait, j'ai mon ordinateur qui me demande de faire une mise à jour de Windows 7 à Windows 10. Et j'ai passé 6 heures à faire la mise à jour.
Ah, wow.
Juste pour le fun. Pas regarder les téléchargements, hein, à désinstaller des trucs qui n'étaient pas compatibles avec Windows 10, qui n'étaient pas vraiment installés, mais qui l'étaient.
Incroyable.
J'ai pété un câble.
C'est pour ça que j'utilise donc, plus Windows, mais. mais ouais.
Bah, après, avec Windows 10, peut-être que ça sera mieux, ça sera peut-être plus. Mais là, franchement, le passage de l'un à l'autre, j'ai voulu jeter l'ordinateur contre un mur. En plus, il est hyper lent. Tu vois, c'est un ordinateur qui a, je sais pas, 200 ans, je suis à peu près. Enfin,
plus ou moins, quoi.
Ouais, plus ou moins, c'était un truc de fou, et ça m'a tellement saoulé, quoi. Ils étaient tous en train, ouais, champagne, et puis moi, ah bah, on t'a mis une coupette, hein, reste devant l'ordi. Putain. À la fin, je me suis dit, je crois que je vais aller acheter un Chromebox à cette personne-là, parce que de toute façon, ça lui sert à rien, ça merde. Et, tant pis, je vais claquer 200 balles, je vais lui offrir pour Noël, et ce sera tout aussi bien, quoi. Donc, comme ça, il arrêtera de m'ennuyer avec ses conneries de Windows et ses mises à jour. Donc, si Microsoft peut faire des mises à jour automatiques, comme Chrome OS, merci Microsoft, hein, ça m'arrangera vraiment beaucoup. Enfin, ça, c'est une petite aparté.
Donc, comme vous voyez, on n'est pas sponsorisé par Microsoft. Au passage, il va être disponible aussi sur Windows 7 et Windows 8, mais du coup, ça va mettre un peu plus de temps à arriver.
Ah.
Ouais. Donc, du coup. Vas-y.
Ils veulent plus de Windows 7.
Ouais,
ils te forcent à faire la mise à jour.
L'objectif, c'est que plus personne n'utilise Windows 7. Ouais.
Ouais, mais bon. Parlons d'un autre navigateur que tu connaissais. Alors, c'est pas un navigateur, c'est pas quelqu'un qui navigue dans les bateaux, tout ça. Hein. C'est ni même un musicien. Je te parle de Vivaldi. Tu connaissais Vivaldi?
Ouais, Vivaldi, le navigateur. Bah ouais, enfin, je connaissais de nom, mais j'avoue qu'en préparant l'émission, on a regardé un petit peu plus en détail. Et oui, bah c'est un des navigateurs qui utilise lui aussi Chromium. Sauf que eux, ils ont triché un petit peu. Tu nous racontes ça, Nico?
C'est amusant. Vivaldi, donc, s'est fait blacklister sur certains sites web. Alors, je ne citerai pas les sites web. Hein. En fait, quand tu utilisais ce navigateur web, que tu allais sur ce site, et ben, paf, il t'éjectait en disant, non, votre navigateur n'est pas compatible. Ça, c'est la petite blague assez amusante. Vivaldi n'a pas vraiment aimé, hein. A priori, il est un petit peu chafouin ce jour-là. Et donc, du coup, plutôt que de se dire, bah, pourquoi ils m'ont blacklisté? Eh ben, ils se sont dit, tiens, si on contournait le problème en expliquant au site web qu'on s'appelle Chrome et pas Vivaldi. Donc, en fait, ils ont implémenté une petite chose dans leur code source pour se faire passer, pour se déguiser en Chrome à chaque fois que le site web demande quel navigateur est utilisé. Alors ça m'a fait vraiment sourire en me disant, ok, c'est génial, mais du coup, arrêtez, puisque si vous êtes obligé de mentir, enfin, si vous êtes obligé de vous faire passer pour un autre, autant utiliser l'autre. Mais bon, C'est assez amusant pour en parler, je pense, en sachant qu'il est basé aussi sur Chromium, comme tu l'as dit. En fait, on a les mêmes avantages que Chrome, mais sur un autre navigateur, et lui-même se fait passer pour Chrome.
Ouais.
Vous m'avez suivi?
Ouais, c'est un peu, en gros, bah, imaginez, oui, le moteur, en fait, est le même, mais par contre, il rajoute tout un tas de fonctionnalités par-dessus, et il change un petit peu l'apparence. L'apparence du logiciel, mais globalement c'est vrai que c'est quand même compliqué pour certains navigateurs de se démarquer de la masse et enfin Vivaldi c'est assez étonnant d'ailleurs qu'ils soient bloqués finalement, je sais pas exactement pourquoi est-ce qu'ils étaient bloqués par les sites web.
J'ai cherché mais pas trouvé l'information dessus hein.
Le fait qu'ils trichent, bon, j'ai presque envie de dire que c'est difficile de leur en vouloir, quoi. Ils sont dans un monde de géants et ils essayent de survivre du mieux qu'ils peuvent, hein.
Bah, je pense pas. Enfin, j'ai dit tricher, c'est la punchline, hein, c'est tout. C'est oui, effectivement. Enfin, c'est ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y ait des sites web qui bloquent ce navigateur. Pourquoi celui-ci plus qu'un autre? Il a rien de méchant et rien de moins bon ou de meilleur que les autres. Il est dans la norme. Il suit le mouvement et c'est sûr. Si on commence à bloquer, en fait, c'est la mort d'un navigateur si on commence à le bloquer. Et donc, ouais. Est-ce que c'est pas un peu de la concurrence déloyale, c'est tuer quelqu'un par ça, c'est pas terrible en fait.
Bah je pense que il y a beaucoup de développeurs web qui doivent nous écouter, c'est vrai que quand t'es développeur web et que tu dois tester et t'assurer que ton site web fonctionne bien sur tous les navigateurs, c'est un petit peu pénible. Donc je pense qu'une technique à l'époque de Internet Explorer en particulier, c'était une technique particulière qui disait bah en gros au lieu de supporter Internet Explorer, on vous met un joli pop-up qui vous dit allez installer Chrome ou Firefox à la place quoi.
Ouais, c'est mais bon, c'était la petite aparté qui m'a fait sourire. On n'était pas encore à Carnaval, mais on se déguise déjà. Si on continue dans les choses un petit peu bizarres, un petit peu, je contourne les solutions pour obtenir beaucoup d'informations. Alors, vous savez, hein, tout le monde le sait, Google récupère des informations de notre vie privée, blablabla, blablabla, c'est les méchants. Mais c'était pas les seuls. Et loin de là, on a une société qui, lui, s'octroyait beaucoup, beaucoup d'informations privées sur les gens et qui était, là pour les protéger, hein, si je m'abuse. Donc, Google vient de retirer, ça fait bientôt 15 jours, 3 semaines, vient de retirer les extensions de cette société. Et vous la connaissez tous parce qu'en fait, c'est le truc gratuit que tous les Windowsistes, ça se dit ça? Tous les mecs sous Windows utilisent parce que c'est gratuit. C'est l'antivirus Avast c'est la société Avast en fait qui avait 3 extensions, si je ne m'abuse, dans le Chrome Web Store et qui récupérait simplement toutes vos données personnelles, peu importe où vous alliez. Ils collectaient mais des données à l'appel. Hein. Donc du Google s'est dit non, il y a que nous qui avons le droit de le faire. On protège nos utilisateurs, donc on vire ces extensions du Chrome Web Store. Donc ça c'est fait. Alors je t'entends tout de suite dire « Ah ouais, mais comment je vais faire? Je peux plus protéger mon Chromebook. » T'inquiète pas, il y a un antivirus dedans qui est déjà préinstallé, qui est déjà mis en place. Mais le PDG d'Avast a déjà expliqué « Oui, c'est une malheureuse mise à jour que nous avons fait. Nous allons tout de suite la corriger pour réintégrer très prochainement le Chrome Web Store. » Donc, t'es content, ça y est, tu pourras récupérer ton Avast gratuit sur ton navigateur web.
Mais alors, ouais, très heureux. Mais donc, du coup, si je comprends bien, c'est une extension qui tournait dans ton navigateur et qui faisait office d'antivirus, c'est ça?
En fait, t'avais Avast. Alors, t'en as 3 d'extensions. Avast, je crois que c'était un espèce de VPN, Avast, quelque chose comme ça. L'Avast, l'antivirus qui vérifie que tes données n'étaient pas vérolées. Et puis un autre, je sais plus exactement. Oui, c'est ça. C'est la même chose que ce que tu peux avoir sur ton ordinateur classique Windows, qui va checker ta mémoire en permanence, des choses comme ça. Alors, pour la petite histoire, il n'y a pas que Google qui les a virés. Hein. Opera, on en parlait. Opera les a virés, les extensions Opera et Mozilla, Firefox aussi les a virés de leur store. Donc, en gros, ils sont un peu tous unanimes en disant que ouais, t'es gentil, mais peut-être que tu en demandes un peu trop, en fait. Ouais. Donc, voilà, ça, a priori, ça protège les gens. Moi, je vous conseille de pas utiliser ce système-là. Sur Windows, il y a un antivirus intégré dans, si je ne m'abuse. Sur Chrome OS, on parle même pas de virus, donc vous embêtez pas avec ça. La seule chose que je peux conseiller, c'est d'avoir une bonne hygiène numérique. Arrêtez de mettre le même mot de passe partout. Faites des recherches intéressantes. Enfin, bref, essayez de faire des choses à peu près proprement. Et ça, vous pouvez vous en passer largement. Alors, désolé, Avast, hein, mais, on n'a pas besoin de vous pour ces deux produits, et Safari, enfin Mac non plus, je pense. Hein, donc, je ne sais pas si c'est mal, mais en tout cas, ils ont mal fait et ils se sont fait prendre la main dans le sac.
Ouais. Et donc, du coup, là, je regarde, a priori les extensions sont de retour là, sur le Chrome Web Store. Mais l'ironie de la chose, c'est que quand tu regardes les screenshots un petit peu, en gros, ils te disent est-ce que ce site est sûr ou est-ce qu'il n'est pas sûr. Donc, c'est ça, je pense, la valeur ajoutée des extensions et t'empêcher d'aller sur un site qui est considéré comme n'étant pas sûr. Et puis au passage, ils te mettent le nombre de trackers qui ont été bloqués par l'extension. Alors ça, je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Mais donc du coup, l'extension se permettait de te bloquer les trackers, te bloquer certains trackers. Quand on sait qu'a priori l'application a été enlevée parce qu'elle collectait beaucoup trop de données personnelles, enfin l'extension a été bloquée parce qu'elle collectait beaucoup trop de données personnelles, ça fait quand même rigoler. Mais bon. Donc voilà.
Arroseur arrosé.
Ouais, c'est un petit peu ça. Tu nous parles de Media Hub.
Ouais, je te parle de Media Hub parce que je trouve ça intéressant à utiliser. Alors, Media Hub, pour ceux qui ne le savent pas, c'est arrivé déjà il y a quelques temps sur Chrome OS, mais pas dans le même esprit, mais un peu pareil. C'est la possibilité de gérer son média, donc audio, directement dans le navigateur Chrome. Donc ça, j'en parle parce qu'en fait, il est accessible partout sur tous les systèmes d'exploitation, que ça soit Chrome, ça soit Windows, Mac, Linux et compagnie. On a, si tu lances YouTube Musique, par exemple, aujourd'hui, tu ne peux pas gérer ta musique autrement qu'en retournant sur l'onglet où le média tourne. Donc, avec Media Hub, tu vas avoir une petite bulle en haut à droite, un bouton play, un petit triangle qui pointe vers la droite. Tu pourras cliquer dessus, ça t'affichera une petite vignette où tu pourras très simplement avancer, reculer, mettre sur pause, voir qui est le chanteur, enfin le groupe, tout ça, directement dans le navigateur Chrome. J'ai trouvé ça sympa. C'est intégré dans Chrome, mais je pense que vu que tout le monde utilise Chromium, il y a de fortes chances qu'il arrive sur d'autres navigateurs assez prochainement. Donc, à surveiller. Je sais pas si tu es utilisateur. Moi, perso, je l'utilise, mais différemment grâce à Chrome OS parce qu'il est dans la barre des notifications en bas à droite, dans la barre d'état. Mais je pense que ça peut être utile pour pas mal de monde.
Ouais, bah c'est mieux que d'avoir l'onglet tout court. Après, c'est vrai que ça reste quand même... Je sais pas, c'est pas complètement, complètement intuitif, mais et je sais pas si les touches du clavier sont mappées sur les touches du pop-up qui s'affiche avec le Media Hub. Est-ce que tu sais?
Ça, je peux pas te dire, j'ai pas essayé, j'ai juste vu la notification, je n'ai rien sur Windows, donc j'ai que des Chrome OS chez moi, donc j'ai pas pu tester. Mais de ce que j'ai vu, déjà la complexité du truc, c'est que pour ouvrir un média, dans tous les cas, t'es obligé de prendre ta souris, d'après ce que j'ai compris, pour aller cliquer sur le bouton play en haut à droite dans les icônes d'extension. Donc d'accord. Déjà, t'as une manipulation à faire. Et ensuite, droite gauche, play stop. Donc est-ce que au final, ça va, c'est pas aussi rapide que d'aller sur l'onglet ouvert, quoi. Ouais. Tu vois, je sais pas trop en fait. À voir s'il y en a qui l'utilisent, qui l'ont utilisé. Moi, je suis curieux d'avoir vos retours, soit dans les notes de l'émission, sur Twitter et compagnie. J'ai du mal ce soir. N'hésitez pas à m'en parler. Que je sache un peu comment ça fonctionne et comment c'est perçu par les utilisateurs. Si on continue sur Chrome, on va dériver un petit peu sur Chrome OS. Ça te dit, parce qu'on en a pas beaucoup parlé et c'est un peu le but du podcast.
Allez, on parle de Chrome OS.
Allez, on parle de Chrome OS. Parce qu'en fait, c'est pas si loin. Je l'ai pas noté dans les notes de l'émission, mais justement, dans la prochaine version de Chrome OS, la version 80, on a ce système de médias. Alors, j'en avais déjà un peu abordé auparavant dans les émissions précédentes. On a ce fameux Media Hub, si tu veux, mais sur la barre, sur la page de verrouillage de ton écran.
Ouais.
Quand t'es pas logué, qui te demande ton mot de passe Chrome OS, là tu pourras quand même gérer ta musique qui tourne en fond. Moi je trouve ça génial. D'autres m'ont dit ça sert à rien si je suis pas devant mon écran, j'écoute pas de la musique. ben moi, quand je suis dans le bureau, je suis pas forcément devant mon écran parce que je peux faire autre chose, je peux écrire, je peux discuter, je peux faire plein d'autres choses en fait. Et l'avantage d'avoir ça, c'est que ma session est verrouillée, mais je peux continuer à écouter de la musique. Typiquement, j'écoute de la musique en Bluetooth avec un casque sans fil. Mmh. Et du coup, en fait, je peux me balader dans le bureau, il s'est verrouillé au bout d'un laps de temps de X secondes et j'ai toujours la musique. Et quand je reviens, en fait, je peux, quand je me mets devant l'écran, je peux juste faire les flèches droite ou gauche de mon clavier pour avancer ou reculer dans la musique. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. La barre espace te permet de mettre sur pause. Donc, ce qui fait que j'ai quand même accès à ça, malgré que ma session soit verrouillée. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas qui, je crois que c'est toi qui me disais que c'était pas bien d'ailleurs.
je suis pas hyper convaincu. Mais, le truc, c'est qu'en fait, quand j'ai envie d'écouter de la musique sur mon ordinateur, c'est que je suis en train de l'utiliser. Mais je veux bien croire que oui, quand ton ordinateur est connecté, par exemple, à je sais pas, ta chaîne Hi-Fi ou ce genre de choses, ben peut-être que t'as envie que ça continue à jouer et en même temps tu veux empêcher que les gens se connectent à ta session et utilisent ton ordinateur.
Tu t'écoutes pas de la musique et t'es pas forcément devant ton ordinateur. Tu te balades pas un peu?
Pas trop, non.
Moi je me balade beaucoup, c'est peut-être pour ça.
Ouais, pas trop. Ouais. Non, moi, pas trop. Non, et puis j'ai mon casque sur les oreilles, donc quand je me balade, ben en général j'ai un casque à fil, donc du coup j'entraîne l'appareil avec moi, l'ordinateur avec moi.
Ah ouais.
Donc non, mais je suis juste je pense que je suis pas dans la cible hein, mais après c'est vrai que si ça te plaît, c'est que c'est important.
OK. On continue dans l'évolution de Chrome OS parce qu'ils ont implémenté aussi dans la version 80 de Chrome OS une petite solution qui est, moi, vraiment très intéressante. Combien de fois tu as déjà cherché pour un médecin, pour un SAV, pour la SNCF? Non, on cherche pas la SNCF, ça marche à main. Désolé. Tu as cherché le numéro du service en question sur Internet. Tu as tapé sur Google, SAV Google, par exemple. Et là, tu tombes sur le numéro. Ça, c'était déjà arrivé, j'imagine.
Ouais. Non, ça m'arrive tout le temps. Ça, par contre, c'est super utile, ce que tu es en train de décrire, Nico. Mais vas-y, je te laisse continuer.
Voilà. Aujourd'hui, bah, t'as le 0800 du service ou le 01 ou je sais pas quoi, le numéro du service. Donc, qu'est-ce que tu fais? D'habitude, tu prends ton téléphone, tu regardes ce qu'il y a sur l'écran, t'es allé chercher, tu prends ton petit clavier et tu tapes 0800, machin, machin. Une fois sur deux, tu relis deux ou trois fois pour être sûr de pas t'être trompé, parce qu'un 0800 à 35 centimes la minute, autant pas te tromper, hein, je peux te le dire. Et ben là, Google vient d'implémenter un système qui te permet aujourd'hui, tu vas sur ton navigateur, tu recherches le numéro de téléphone de ton service que tu souhaites contacter, et avec ta souris, tu sélectionnes le numéro, fais un clic droit et tu fais lancer l'appel. Et là, ton téléphone compose automatiquement le numéro de téléphone.
Ouais,
et je peux te dire que ça a changé ma vie des SAV. Alors maintenant, je peux appeler tous les SAV sans me soucier quoi que ce soit, sauf des 35 centimes la minute, mais c'est pas le sujet du podcast, mais c'est vraiment génial et ça m'a permis de. Alors c'est pas énorme, enfin c'est pas l'invention du siècle. Par contre, c'est vraiment pratique. Ça t'évite de te louper, de chercher, de complexifier tout ça. Et quand ton Chromebook, alors c'est la condition sine qua non, hein, il faut que ton Chromebook soit lié à ton smartphone pour pouvoir lancer l'appel. Mais une fois que c'est fait, il y a vraiment que du bonheur.
Non, ouais, ça c'est génial. Pour être très honnête, ça m'arrive souvent en fait moi de prendre directement les je sais pas si tu peux utiliser ça, mais vu que mon opérateur mobile c'est aussi Google, en fait je peux utiliser Hangout pour passer des coups de fil. Alors tu peux utiliser Hangout depuis un petit moment pour appeler des numéros de téléphone, mais là l'avantage c'est que je l'ai fait quand j'appelle ce numéro là, c'est mon numéro de téléphone mobile en fait qui s'affiche du côté de la personne que j'appelle, et donc du coup ça me permet de façon un petit peu indéterminée d'utiliser soit mon téléphone soit mon ordinateur pour passer mes coups de téléphone. Donc des fois c'est pour éviter justement de jongler avec le numéro et de le recopier, j'appelle directement de l'ordinateur quand je peux, mais malgré tout non, ça a raison, c'est quand même une super amélioration et c'est un truc que je vais utiliser sans problème, ça.
Quand t'as lié, enfin moi je l'utilise depuis que ça arrivait. Donc moi c'est arrivé il y a 2 semaines, une semaine et demie. J'ai un article qui va apparaître aujourd'hui à 8h ce matin. Il a dû être mis en ligne et où il y a plusieurs évolutions. Je vais vous en parler un petit peu là. Mais le fait que Chrome OS se lie de plus en plus à Android, je peux te dire c'est génial. Je déverrouille mon Chromebook quand les deux sont à proximité. J'ai juste appuyé sur la touche Entrée et j'ai pas besoin de taper le long code qui fait 200 000 caractères spéciaux parce que j'ai décidé de mettre des codes que je ne me souvenais pas. C'était des codes qui sont générés aléatoirement. Alors, pour Google, pardon, j'allais dire un gros mot, mais pour Google, il fait je sais plus combien de caractères. Je peux te dire que ça me, c'est vachement mieux d'appuyer sur Entrée que de faire mes 12 caractères là. C'est l'instant tethering où mon téléphone se lie automatiquement dès que je perds le réseau. Aujourd'hui, je m'en parle parce que j'ai eu une coupure de courant en courant de semaine, et je me suis même pas aperçu que j'avais plus de courant en fait chez moi parce que mon Chromebook était sur batterie et c'est mon téléphone qui a pris le pas sur l'antenne 4G près de chez moi. Et bah en fait je me suis pas aperçu du tout que j'avais une coupure de courant. Je m'en suis aperçu parce que comme tout le monde j'ai un four avec l'heure qui s'est mis à clignoter parce qu'il y avait plus d'électricité. Et je me suis aperçu qu'il y avait une coupure de courant à cause de ça quoi. Et bah moi j'ai pas eu de problème en fait. Et après on est venu me dire ah t'as vu ça fait une heure qu'on a plus de courant. Ah pardon j'avais pas vu en fait. Donc c'est étonnant et vraiment pratique. C'est aussi envoyer des SMS depuis son Chromebook. Alors il y en a beaucoup qui me disent ouais mais sur Mac c'est possible, sur Windows ça l'est aussi, pourquoi ça n'était pas sur Chrome OS, je sais pas, mais en tout cas ça y est maintenant et c'est vraiment super sympa. Donc la convergence entre les deux est de plus en plus flagrante, ouais. Et de plus en plus intéressante, ouais. À l'usage,
ouais, c'est exactement ça, c'est, et je pense pas que ça va s'arrêter, ça va continuer, donc c'est une bonne chose, ouais.
Ensuite on a une nouvelle, enfin une mise à jour des bureaux virtuels, je crois que non, tu m'as dit que tu n'en utilisais pas. Toi, tu avais plutôt 3 vrais écrans plutôt qu'un écran divisé en 3.
Ouais, j'utilise un petit peu, mais je suis pas aussi, comment dire, excité par cette nouvelle fonctionnalité que tu ne l'étais. Est-ce que tu l'utilises, toi ?
Ouais, moi j'aime bien. Ouais, je l'utilise parce que j'ai un écran de 13 pouces, donc c'est pas énorme. Et par contre, j'ai besoin de plus de place au quotidien. J'ai besoin de plus de place. Alors pas parce que j'ai besoin de plus de place, mais c'est plus agréable à utiliser comme ça. Typiquement, j'ouvre des bureaux virtuels. Donc c'est des écrans virtuels qui n'existent pas et je switch de l'un à l'autre en fonction de ce que je veux faire. Typiquement, quand j'écris un article aujourd'hui, j'ai mon Google Doc qui est ouvert dans un bureau virtuel. Et j'ai mes sources dans un deuxième bureau virtuel, ce qui fait que j'ai juste à faire Alt-Tab pour passer de l'un à l'autre sans avoir à scroller dans les onglets parce que j'ouvre deux navigateurs web, enfin deux onglets de navigateurs que je sépare. Aujourd'hui, tu vas me dire oui, bah t'as juste à faire Ctrl-Tab pour passer d'un onglet à un autre. Mais quand j'en ai 10 ouverts, je peux te dire que c'est compliqué. Ouais. Donc du coup, de passer d'un bureau virtuel à un autre, c'est vraiment pratique. Et puis j'ai souvent plusieurs bureaux virtuels d'activer en même temps, mais j'ai un autre bureau virtuel où je vais avoir toutes mes communications. Donc ça veut dire que je vais avoir Hangouts. Enfin, j'ai créé un espace qui est intéressant, c'est que j'ai placé Hangouts dans un coin, j'ai classé mes mails dans un autre coin, mon Twitter dans un autre. En fait, ce qui fait que j'ai une interface communautaire en discussion. Qui est sur un bureau, donc en fait quand je passe d'un bureau à un autre, en fait j'ai toujours la même interface, faut pas que je descende des fenêtres en rouvrir une autre ou autre chose comme ça. C'est comme ça que je m'en sers, comme si j'avais 3 écrans finalement, ouais. Sauf que je les ai pas. Dans un sac, j'ai essayé, dans mon sac de voyage 3 écrans c'est trop
ça long. Tient pas,
c'est pas possible, ouais. Puis il faut des prises de courant, tout ça c'est chiant. Donc du coup, pour revenir à mes bureaux virtuels, toute petite évolution qui est pas énorme, mais qui est assez intéressant, on peut créer les bureaux virtuels avec des raccourcis clavier. Un qui a été mis à jour, qui est Control Search, vous savez, la petite loupe ou le petit rond pour ceux qui ont des Pixelbook, est égal, donc Control Search égal, permet de créer, de générer directement un bureau virtuel à droite en fait. Et moi, je trouve ça plutôt sympa parce qu'on peut en créer plusieurs, donc on peut en créer jusqu'à 5 si je ne m'abuse. Et moi je l'utilise pas mal. Après c'est un coup à prendre, hein, je t'avouerai, parce qu'au début en fait j'oubliais que j'avais le bureau virtuel d'activer, donc des fois je rouvrais le même onglet que j'avais ailleurs.
D'accord.
C'est amusant, voilà. Mais moi j'aime bien, franchement je trouve ça pratique en mobilité. C'est sûr que si j'étais pas en mobilité, je préfère 3 écrans,
j'ai
quoi. Donc voilà.
Okay.
Ensuite on continue sur les applications. les applications sur Chrome OS. Alors tu l'as vu, j'en ai parlé pendant la présentation, ouais. La préparation, pardon. Google a décidé de segmenter les paramètres sur Chrome OS. D'un côté, ils ont mis Chrome OS, de l'autre côté, ils ont mis Chrome, les paramètres de Chrome et les paramètres de Chrome OS, donc les paramètres du système d'exploitation et les paramètres du navigateur. Je l'ai dit trois fois, normalement différemment, donc normalement tout le monde a compris. Moi, j'aime pas, je trouve ça je trouve que ça complexifie un peu la lisibilité du truc, mais je comprends pourquoi ils l'ont fait. Typiquement, j'imagine, pour revenir là-dessus, j'imagine que on sait tous que les Chromebooks ont une fin de mise à jour, une date spéciale butoir à partir de laquelle ils ne seront plus mis à jour sous Chrome OS. Ça, tu le savais, hein, je t'en prends ouais. rien, Thomas.
Non, ça, je savais.
Mais peut-être que Google s'est dit, ouais, du coup, on va peut-être donner des ordinateurs qui, dans quelques mois, années, ne seront plus mis à jour au niveau système d'exploitation. Mais les gens vont continuer à l'utiliser. Mais vu que Chrome et Chrome OS sont le même système, ils n'auront plus une mise à jour sécurité de Chrome. Et du coup, ben, on pourra plus leur proposer pourra plus leur dire, ben, venez utiliser Chrome, c'est sûr, vous aurez pas de problème sur Internet. Donc, à mon avis, ils ont segmenté les deux pour pouvoir continuer à mettre à jour Chrome sans mettre à jour Chrome OS forcément. Bon, ça, c'est mon hypothèse. Je n'ai aucune info là-dessus, mais je pense qu'en fait, ils segmentent les deux pour pouvoir bien mettre à jour Chrome et garder les mises à jour de sécurité quand même, même si Chrome OS n'est plus mis à jour. Au-delà de ça, en faisant ça, ils nous ont donné la possibilité, cette fois, dans les paramètres de Chrome OS, de gérer les applications enfin correctement. Vous allez dans Chrome, le paramètre Chrome OS, pardon, vous aurez un nouveau menu qui apparaît, qui s'appelle, enfin, c'est pas un nouveau menu, il existait déjà, mais il faisait pas ça. Vous allez dans le menu Applications, et dans le menu Applications, il y a Gérer vos applications, et là, il liste toutes les applications disponibles sur votre Chromebook, alors que ça soit Android ou Chrome OS et compagnie. Et de là, on va évidemment pouvoir supprimer une application, la désinstaller. Hein. Alors, ceci dit, on peut déjà le faire auparavant en allant dans le lanceur d'application, clic droit, supprimer. Mais là, vous allez pouvoir désinstaller l'application. Vous allez pouvoir l'épingler directement sur la barre d'étagère. Tu sais, la barre tout en bas, là. Ouais. On va pouvoir activer et désactiver les notifications. Alors, ça, c'est plutôt intéressant, surtout pour les applications Android qui demandent toujours, voilà, ah, ça y est, t'as farmé 10 cristals. Est-ce que tu veux les utiliser maintenant? Non, tu peux. Ouais, je joue à Mario Kart.
Ça sent
voilà, tu peux bloquer les notifications, mais là où c'est encore plus intéressant, tu vas pouvoir gérer les autorisations de chacune des applications. Donc ça a été implémenté dans Chrome OS, dans Android 10 déjà, où tu peux gérer toutes les applications, les autorisations par application, c'est-à-dire tu l'autorises à aller sur à utiliser ta géolocalisation, ton appareil photo, ton micro, toutes les autorisations possibles. Et ben là, tu vas pouvoir aussi faire la même chose sur Chrome OS, c'est-à-dire là, j'ai pris une application au hasard, tu vois déjà ce qui est coché ou pas coché. Donc tu peux te dire, tiens putain, l'application là qui est censée juste faire du traitement de texte, il me demande l'accès à mon appareil photo, à mon micro, pourquoi? C'est un peu chelou déjà, sauf s'il a un gestionnaire de voix. Bah là, tu peux le désactiver si tu le souhaites. Donc, et tu peux faire ça sur aussi bien les applications Chrome que Android. Pas encore Linux, mais ça ne serait tardé, ouais, j'imagine.
C'est l'étape d'après.
Ouais, je pense que c'est l'étape d'après. Hein. Ça y vient. Pas encore Linux. Je revérifie. J'ai regardé tout à l'heure. Ça ne l'était pas. Je regarde si j'en ai pas loupé une. Attends, je vais vite faire une recherche en live juste pour voir. Non, pas encore les applications Linux. Ouais. Mais je trouve ça assez intéressant d'avoir proposé ce système-là et pour avoir une simplicité d'utilisation plutôt que d'aller chercher directement dans le lanceur, clic droit, ouvrir les propriétés de cette application, gérer les paramètres et compagnie. Ou alors, pour les applications Android, il fallait carrément aller dans le Google Play Store, dans les paramètres d'application et les gérer une par une. C'est un petit peu chiant et je trouve que c'est bien. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Mmh.
Non, si, moi, c'est bien. Après, bon, ça reste quand même malgré tout. Bon, nous, on aime bien aller trifouiller dans les menus, surtout toi. Mais c'est vrai que les gens qui sont pas super confortables avec l'outil informatique, à mon avis, ça reste encore un tout petit peu trop compliqué pour eux. Mais bon, c'est un peu mieux que ce qu'on avait avant. Enfin, je sais pas.
Ouais, bah c'est regroupé. L'avantage, c'est que c'est regroupé sous un seul nom qui s'appelle application.
Ouais.
Tu vois, c'est pas comme Windows où fallait aller. Enfin quoi, non, Windows, tu vas dans désinstaller, t'as la même chose, mais ça ressemble aux autres systèmes d'exploitation, si tu veux. Et ceux qui viennent du monde de Windows vont pas trop être perdus. Ils retrouveront leurs deux trucs différents.
Ouais.
Mais non, moi j'ai bien aimé. Je trouve ça intéressant d'avoir tout ça. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que j'avais beaucoup trop d'applications que je ne me servais pas sur mon Chromebook. J'ai commencé à les désinstaller.
Ça permet de faire le tri.
J'installe, mais je désinstalle pas moi. Ouais. Je fais jamais le tri. Donc voilà, c'est plutôt bien. Autre petite nouveauté intéressante et qui me semble très très intéressante, c'est que Google a implémenté, alors depuis Chrome OS 79, j'ai revérifié, je t'ai dit une connerie tout à l'heure en disant que c'était sur 80, mais sur 79 c'est déjà le cas, où on peut enfin voir la date, le calendrier des mises à jour de Chrome OS. Encore une fois, désolé Thomas, c'est dans les paramètres de Chrome OS où il faut aller dans à propos de, je crois que c'est comme ça, on a ici, c'est là qu'on pouvait voir les mises à jour, tu sais, dans à propos de Chrome OS, tu pouvais vérifier la version et puis faire une mise à jour, chercher une mise à jour. Et ben là maintenant, si tu descends un petit peu sur infos supplémentaires, tu vas avoir la date à laquelle ton Chromebook ne recevra plus de mise à jour de sécurité automatique de la part de Google, donc qui te dit en gros à partir de là Chrome OS, ça y est, on fait plus de mise à jour. Donc ça c'est plutôt intéressant et t'avais une idée qui était plutôt bien, je la reprends, hein, tu me corrigeras si je me trompe, c'est que ceux qui veulent se mettre à un Chromebook, qui achètent un Chromebook, je sais pas, sur Amazon ou en grande distribution, aujourd'hui, ils vont acheter un produit peut-être pas trop cher pour se lancer dans le marché sur Chrome OS, et ben, aujourd'hui, ils vont pouvoir aller vérifier si leur Chromebook pourra être mis à jour plus longtemps. Parce que c'est clair, si tu es en juillet 2018 et que ta mise à jour s'arrête en juin 2019, je peux te dire que tu as un petit peu les boules, même si ça coûte que 200 balles. Donc du coup, ça permet de savoir où on va et sous combien de temps on est à peu près sûr d'avoir ces mises à jour. Pas à peu près sûr, on est sûr d'avoir ces mises à jour. Mmh. On en parlait un petit peu aussi au début. Google a augmenté une bonne partie des Chromebooks, donc a augmenté la durée de mise à jour d'une bonne partie des Chromebooks. Typiquement, moi, j'ai pris 1 ou 2 ans de plus. Ouais, c'est ça. En moyenne, c'est 6 ans. Là, j'ai 8 ans de mise à jour sur mon Chromebook, ce qui est énorme en soi. Hein. On s'offusque à ce que Google nous dise, tiens, je mets à jour que jusqu'à cette date-là. Mais au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et 8 ans de mise à jour, c'est déjà bien, même si ça pourrait être encore plus. Et ça ne veut pas dire que dans 8 ans, ils vont pas me dire « j'augmente encore un petit peu ta date de fin de mise à jour ». Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Thomas ?
Je suis d'accord. Non, j'étais en train de jouer avec les paramètres de mon Chromebook, justement, pour suivre un petit peu ce que tu disais. Mais non, c'est en effet, comme je te l'ai dit, hein, tu l'as dit en préparant un peu l'émission, c'est vrai que oui, il y a des gens comme nous qui prenons le soin, enfin surtout toi, qui prenons le soin de suivre très très en détail toutes ces choses-là. Et puis il y a ma mère qui achète un Chromebook et qui essaye de savoir un petit peu si ça va convenir à ses besoins sans forcément chercher beaucoup plus loin que ça. Donc je pense que c'est intéressant qu'il y ait un minimum de transparence, ne serait-ce que pour les gens qui travaillent chez Boulanger ou à la Fnac et qui sont censés vendre des Chromebooks, et au moins qui peuvent trouver des réponses aux questions que les gens peuvent leur poser. Après ça reste quand même peut-être un tout petit peu trop ésotérique pour beaucoup d'utilisateurs, quoi. Mais bon, c'est pas le cas de nos auditeurs.
Après, il faut savoir que ça existe aussi.
Ouais,
c'est ça. Il faut savoir que ça existe.
C'est ça, exactement. Mais les gens qui écoutent le CKB Show le savent. Et donc voilà. Donc du coup, les gens qui nous écoutent sont au courant de comment ces choses-là fonctionnent.
Donc regardez, je vous invite à regarder dans vos paramètres si vous avez un Chromebook, savoir jusqu'à quand est mis à jour votre Chromebook. Et si c'est dans 3 semaines, c'est pas ma faute. Moi, je ne suis que le messager. Il faut pas me taper. pas la tête, s'il vous plaît. Donc, je trouve ça bien. Au moins, la transparence des débuts, en fait. On te cache pas les choses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On continue sur Google, mais cette fois on va se calmer un petit peu parce que ça va être vite très très speed. On va parler de Stadia. Stadia, tu le sais, je suis pas un grand joueur. Comme le dirait Gaëtan dans le dernier épisode, vous avez entendu, on a parlé de Google Stadia. Je remercie d'ailleurs Gaëtan, c'est un super épisode, j'ai vraiment apprécié le rendez-vous avec lui. Pas que c'était mieux qu'avec toi, hein, Thomas. Rien à voir, hein, c'est complètement.
Si, c'était très bien. Et puis t'avais un expert pour parler Stadia et c'est clair qu'il a fait clairement du meilleur boulot que moi j'aurais pu. Donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et j'ai pas encore sauté le pas. Parce que je me dis que je joue pas assez ou c'est un risque si je commence à sauter sur Stadia, soit ça va être du gaspillage parce que je vais pas jouer suffisamment, soit du coup je vais faire que ça et ma vie va s'arrêter et je vais me focaliser sur le jeu vidéo. Donc pour l'instant j'écoute avec intérêt tes retours, mais je suis pas encore décidé à sauter le pas moi-même.
Donc le jour J, hein, en juin, ils annoncent le truc, le 24 juin, je crois. Le 24 au soir, j'étais sur la touche refresh de mon Chromebook, je l'ai abîmé tellement j'appuyais dessus pour putain, quand est-ce qu'il met à jour? Hop, dès qu'il a eu, paf, allez, j'ai claqué 129 balles, j'ai acheté le pack fondateur. Très belle manette, ceci dit, hein. Bon, bref, peu importe, je m'en sers pas parce que je joue sur mon Chromebook principalement. Moi, je suis très très fan, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai du mal à comprendre l'acharnement des youtubeurs et compagnie dessus parce que j'arrive pas avoir le même ressenti qu'eux. J'aimerais avoir le même ressenti et dire qu'ils ont raison, où ils parlent de lag, ils parlent d'input lag et compagnie, en fait, tous des trucs techniques que je comprends pas. Moi, en fait, je suis dans la cible que disait Gaëtan, la cible des papas. Tu sais, ceux qui jouaient quand ils étaient plus jeunes à Pong. J'ai joué à Pong, j'y jouais pas, hein, c'était la fin, moi. Je suis pas si vieux que ça, quand même. Et qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup de temps, mais un petit peu de moyens, et qui peuvent, qui ont pas envie de passer 2 heures à mettre à jour leur console avant de pouvoir jouer. Bah, typiquement, c'est exactement moi. Et moi, j'ai pas d'expertise sur d'autres jeux, si tu veux. Alors, c'est peut-être ça qui fait la différence entre moi puis les youtubeurs qui est gamer. Moi, j'ai pris un jeu, je ne sais pas comment il fonctionnait auparavant sur une autre plateforme. Il marche chez moi, c'est tout ce qui m'importe. Je ne joue pas pour la compétition, je joue pour jouer, pour me détendre. Enfin, si on peut se détendre en tuant des monstres, ça, je suis un peu énervé après, généralement.
Ou en labourant son champ dans Farm Simulator.
C'est peut-être une détente, c'est peut-être pour ça qu'il marche si bien ce jeu. Et du coup, je comprends pas bien, mais bon, peu importe. Moi, ça m'amuse, ça marche super bien. Certains disent, ouais, mais il y a personne qui l'a pris. Il faut savoir que Google choisit d'ouvrir les vannes en fonction des retours qu'ils ont. C'est-à-dire que, ben, au début, ils ont pris les packs fondateurs, ça fonctionne. Ils ont ouvert première édition, ça fonctionne. Ils ont ouvert les invitations, ça fonctionne. Donc, ils ont refait une deuxième vague d'invitations. Aujourd'hui, en fait, ils ont fait une grosse bêta et c'est peut-être ça leur problème. Ils ont été un petit peu bêta dans l'histoire, dans leur communication. Ils ont fait une bêta, ils l'ont pas dit. Et c'est ça le truc. Je pense que c'est à cause de ça que tout le monde s'acharne sur eux. C'est qu'aujourd'hui, on est sur une pré-alpha, une pré-bêta qui fait que le jeu, il est pas encore au complet, mais ça s'améliore. Et c'est là que la suite du prompteur arrive. Google a rajouté des nouveaux jeux. Ça, c'est génial. Et ils ont rajouté des jeux gratuits pour les Stadia fondateurs, les pros, les Stadia Pro. Ils ont rajouté donc une deuxième Buddy Pass. C'est la possibilité d'inviter un deuxième ami à jouer avec toi, parce que sinon, t'es un peu tout seul avec ton autre ami. Ils ont activé l'assistant personnel, vous savez, Google, sur la manette. Il y a un bouton pour appeler l'assistant personnel quand t'es coincé. Tu l'appelles, tu dis waouh, je suis coincé, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il te dit peut-être que tu devrais regarder autour de toi. Mais ça fait 3 heures que je le fais. Alors regarde s'il n'y a pas une corde pour sauter de l'autre côté de la falaise. Je l'ai pas essayé, hein. Je suis assez fort pour pas avoir essayé l'assistant personnel. Ils ont rajouté le système de badge. Enfin, c'est pas des badges, des, comment on appelle ça, des réussites. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est, tu passes des missions et ça te donne des badges et puis ça te dit ouais, c'est pour les carriéristes du jeu, toi. Ouais, j'ai fait tous les niveaux en étoile maximum avec la coupe bronze et or, je sais pas quoi. Ben, ça, ils l'ont rajouté. Donc, les gamers vont être contents. Et pour parfaire tout ça, ils se sont dit, tiens, ça marche pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer nos propres jeux. Et on a racheté une société qui s'appelle Typhon Studio. Pour la petite histoire, Typhon Studio, c'est le papa de ce studio. C'est celui, il a fait partie du groupe qui a créé Assassin's Creed 3 et Far Cry 4. Donc c'est plutôt sympa. C'est quelqu'un qui a un peu de bouteille autour de ça. Et donc ils viennent d'acquérir ce studio pour une petite somme. Je sais pas combien, je me souviens plus. Je sais même pas si ça a été annoncé, la somme. Quelques millions, milliards. Peut-être, je sais pas. Mais pour faire des jeux triple A, donc ils l'ont annoncé, ils vont le faire. Ils rachètent à tour de bras des studios pour pouvoir donner du grain à moudre aux gamers. Et aujourd'hui, voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt bon. Je suis très satisfait. Je joue encore une fois sur mon réseau 4G. Je n'ai pas de latence. J'arrive à jouer à tous les jeux sans me poser de questions. Et par contre, je consomme, hein, de la data, je consomme comme un 4,5 gigas par heure et en bas débit. Hein, c'est un truc de fou là. Heureusement que j'ai un forfait illimité. Mais sinon, ouais, là hier, j'ai joué 2 heures, je crois. J'ai perdu 10 gigas de mon débit, quoi. C'est énorme. Mais bon, je suis plutôt satisfait. Si vous voulez essayer, attendez peut-être la version gratuite qui arrivera à mi-mars de l'année prochaine. Ou faites-vous offrir un Buddy Pass par les gens qui en ont encore. Et c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Et sur un Chromebook, je peux te dire que c'est la classe, quoi. Ouais. Je fais tourner Linux, je fais tourner les applications Windows avec Crossover et compagnie, je fais tourner les applications Android, je fais tourner les applications Chrome, et c'est la meilleure console du jeu du monde que je puisse avoir aujourd'hui. Que demande le peuple pour un produit que j'ai acheté 2, 3, 4, 500 euros en fonction du produit que vous voulez. Ouais. Il peut être le plus vieux possible avec seulement 2 gigas de RAM. Tant que ça fait tourner Chrome, ça marche du tonnerre de Dieu. Veillez simplement à avoir une bonne connexion Internet parce que si vous faites comme en 4G et que vous n'avez pas de forfait limité, ça peut vite piquer. Hein.
Ça va,
mais sinon,
ouais.
C'est génial.
C'est, sur le long terme, c'est problématique. Mais non, mais écoute, comme d'habitude, hein, tu le vends bien. Je te dis, je vais attendre encore un petit peu, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que, j'essaie au moins la version gratuite, quoi.
C'est étonnant. Après, la version gratuite, le problème, c'est que t'as pas de jeu.
Je serais obligé d'acheter.
Ouais, quoi. Moi, je te conseille plus d'acheter, sauf si tu veux pas un des jeux qui est inclus dans le pack pro, si tu veux. Mais là, ils vont évoluer. Clairement, ils vont. Aujourd'hui, ils sont en bêta. Il y a des concurrents qui sont très bons, à Microsoft, qui lancent des packs avec des jeux inclus, une quantité de jeux phénoménale. Mais après, c'est pas comparable. On parle de Microsoft, ça fait des années qu'ils font ça, et Google, ça fait 3 mois qu'ils font ça, quoi.
Ouais, c'est ça.
Je pense que d'ici l'ouverture au grand public en gratuit, au moins, premier trimestre 2020, pardon, Google balancera beaucoup plus de jeux inclus dans le pack fondateur, enfin dans le pack pro, non, basique, dans le pro. Donc, si le jeu fait partie de cette liste-là, typiquement, tiens, je vais parler de Destiny 2, tiens. C'est le jeu auquel je joue le plus, parce que j'ai un pote qui joue dessus, et puis, du coup, on joue un petit peu ensemble. Moi, je l'ai sur Stadia, il m'offre tout, c'est-à-dire tous les packs saison, les trucs comme ça, qui sont payés. Alors, Destiny 2, c'est gratuit. Donc, j'imagine que même dans la version gratuite de Stadia, il sera offert aussi. Hein, tu pourras y jouer également puisque le jeu en lui-même est gratuit. Par contre, dès que tu veux avancer un petit peu, bah, c'est t'achètes des packs saison, en fait, qui te coûtent 10 balles par 3 semaines ou un mois, je ne sais pas exactement, ou 2 mois. Mm-hmm. Bah, là, ils te l'incluent gratuitement dans le jeu. Donc, typiquement, autant prendre le Stadia Pro pour avoir accès au jeu et aux extensions, finalement, pour 10 balles par mois, plutôt que de payer ton extension 10 balles et rien avoir d'autre à côté. Là, j'ai 4 jeux. On aime ou on n'aime pas, hein, mais j'ai Destiny 2, j'ai Lara Croft, Tomb Raider, j'ai le truc de Farming Simulator, là. J'y joue pas, j'ai essayé, j'ai pas bien compris le principe, mais et puis j'ai un autre jeu de combat que je ne joue pas non plus, et en plus j'ai acheté des jeux parce que j'étais pro. Non, tu me diras, t'avais pas d'autre chance. Ils étaient à 29€ ou à 19€, au lieu de 39. Donc en fait, quoi qu'il arrive, en prenant le pro, je vais faire des économies si j'ai envie de jouer, évidemment. Si t'as pas envie de jouer, fais pas ça. Ouais. T'embête pas. Mais si t'as envie de jouer un petit peu, autant prendre le pro. Et dans 6 mois, tu prends le pro, tu l'arrêtes au bout d'un mois, t'as bénéficié de la remise. Ton jeu, il est à 50% parce que t'es en pro. Ton jeu, tu l'as toujours et ils te prennent pas la différence. Donc, au pire, tu vois, c'est un investissement qui est pas très complexe à comprendre.
Ouais.
C'est, tu fais 20 balles d'économie sur le coup, bah, prends-le un mois, puis le mois d'après, t'arrêtes si vraiment tu veux pas.
Ouais, non, ouais, c'est voilà. Vrai.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Voilà, c'était le Stadia Pro par Nico. Un petit truc à ajouter sur Stadia ? Non, on a fait le tour.
Sur Stadia, non, j'ai fait le tour. On peut maintenant acheter les jeux, si j'en ai pas parlé, mais maintenant, avant, on pouvait pas acheter les jeux sur son navigateur web. On était obligé de passer par l'application Chrome. Ça y est, ils ont intégré, le store de jeux directement depuis le navigateur. On le voit, ils avancent petit à petit. Ouais. Ils rajoutent tout ce qu'ils ont dit petit à petit. Le screenshot, pour l'instant, on l'a pas sur le navigateur. On l'a que depuis la manette, en fait. Et on peut pas encore récupérer les screenshots. Bon, après, c'est pas forcément nécessaire pour tout le monde, mais genre, t'as un super truc que t'as fait, de la mort qui tue, tu peux enregistrer 30 secondes de ça, en fait, en vidéo. Donc, c'est plutôt sympa pour te vanter vers tes potes, parce que moi, quand je réussis un truc, on me dit, oh, c'est pas vrai, t'es nul, tu y arrives jamais. Donc là, je pourrais prouver, si, regarde, j'ai fait la vidéo. Tu vois? Voilà. Donc, des choses petit à petit, mais qui arrivent progressivement. Il y a encore des questions en suspens, mais qui vont sûrement sortir très prochainement. Type, est-ce que si je suis sur Stadia Pro, est-ce que ceux du pack famille ont accès aux jeux que j'ai achetés, par exemple, ce que serait possible en soi. Typiquement, je te mets dans mon pack famille. Est-ce que t'es obligé de payer le jeu, tu vois?
A priori non, mais c'est vrai que ça va.
Ouais. Non, a priori non. Tu vois, tu te prends le Stadia gratuit. Et moi, je te mets dans mon groupe d'amis ou de famille.
Ouais.
Et tu peux jouer au jeu payant, quoi.
A priori, je bénéficie aussi des jeux. Ouais, il n'y a pas de raison que. Enfin, c'est comme une console dans une famille, quoi. Mais oui, j'imagine qu'il y a encore plein de détails à régler. Pareil, Stadia, Google Stadia Connect pour le live stream.
Ouais.
C'est. Ah non, attends, comment ça s'appelle quand tu veux. Je suis en train d'essayer de comprendre si tu veux streamer sur YouTube. Si tu veux streamer sur YouTube, t'es parti. C'est quoi leur solution ? Il n'y a pas de solution pour l'instant pour faire ça ?
Bah, pour l'instant, elle n'est pas active. Je ne sais plus le nom qu'ils ont utilisé, mais c'est ce qui va. À mon avis, ils attendent l'ouverture gratuite.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, ils testent. Donc, avoir trop de monde qui fait des choses dessus, peut-être que ça va mettre à genoux leur serveur ou des choses comme ça.
D'accord.
Donc, mais dès qu'il sera gratuit, à mon avis, ils vont ouvrir ça. Et l'intérêt du streamer, par exemple moi, qui ai une connexion de merde, aujourd'hui, si je veux streamer ce que je fais, ça va me coûter un débit de malade, quoi. Jamais ça passera. Là, en fait, je stream l'écran, enfin, je stream le jeu qui n'est pas chez moi, en fait. Donc, le stream est parfait. Il n'y aura pas de.
Ouais, ceux qui vont directement streamer, en fait, ta partie, vu que c'est OK.
C'est
là.
Ça. Ouais. Peut-être qu'il y aura juste ma tête qui apparaîtra en fond vert, je sais pas où.
Mais je sais qu'à une époque, quand ils avaient présenté Stadia, ils présentaient, donc, je crois que c'était justement pour NBA Live. Ils montraient un joueur qui jouait et du coup, qui streamait sa partie en live sur YouTube. Et qui invitait des gens, enfin qui laissait les gens en fait rentrer directement dans la partie à partir de la vidéo YouTube, la vidéo live YouTube.
Ouais.
Donc ça, typiquement, c'est pareil, c'est des usages qui sont pas encore disponibles aujourd'hui.
Non, elles y seront quand tout sera mis en place. Je pense qu'en un premier temps, ils vont ouvrir aux streamers ce produit pour donner envie, en fait, pour montrer que ça fonctionne. Moi, je vais streamer. Clairement, je fais une partie d'une heure, je vais la streamer. Moi, je m'en fous, gagner de l'argent ou pas avec ça, c'est pas le problème. Mais c'est pour montrer que, bah, de toute façon, ça me coûtera rien en bande passante. Mmh. Ça me coûtera rien en montage puisque, en fait, c'est du stream live que tu joues. Puis point. Si tu veux discuter, le micro il est ouvert par défaut si je le laisse ouvert. Enfin, c'est pas un gros souci. Et quand ça sera ouvert en gratuit, en fait, il y aura un bouton. Tu peux aujourd'hui décider si les gens peuvent te rejoindre ou pas déjà.
T'as
un
bouton qui te permet d'être
visible
aujourd'hui.
Ou pas visible.
D'accord.
Mais ça marche pas.
Ah,
mais tu peux le faire. Mais tu le vois, il est grisé pour l'instant, mais tu peux pas l'utiliser. Donc ça veut dire que c'est pas oublié si tu veux.
Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu streams aussi ou tu laisses juste les gens.
Non, pour l'instant.
Mais tu peux pas streamer.
Pour l'instant, ils te voient, c'est tout.
D'accord. Ils savent que tu es là en train de jouer, mais du coup, tu peux pas. D'accord.
C'est ça. Et ils savent à quel jeu je joue. Parce que je l'ai laissé ouvert. Tu peux le masquer, hein. Si tu veux pas de ça, tu peux ne pas le mettre. Moi, je l'ai laissé ouvert parce que, bah, plus de monde me rejoint pour jouer. Moi, je suis tout seul sur Destiny 2 parce qu'il y a des parties où il faut être 6 minimum pour jouer.
D'accord.
Bah, quand t'es tout seul, c'est un peu impossible de gagner. Donc, voilà. Et, donc ça va être ouvert. Ça va être ouvert quand ça sera gratuit parce que ça va attirer beaucoup de monde. Imagine un joueur comme Squeezie qui a, je sais pas combien de millions de joueurs, de personnes qui le regardent s'il fait ça. Combien il y en a qui vont le rejoindre sur la partie, quoi.
Ouais.
Comment le serveur va saturer? Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que tu n'auras même pas besoin de te créer de compte, puisque par défaut, tu l'as déjà.
Mm.
Puisque c'est ton adresse Gmail qui le fait.
Ouais.
Donc, et vu que tu es connecté sur YouTube avec ton adresse Gmail, bah, par défaut, tu auras juste à cliquer sur rejoindre. Si le jeu est gratuit, bah, pouf, tu y vas gratuitement, puis tu joues, quoi. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un afflux de joueurs qui peut faire mettre à genoux leur serveur, donc ils y vont progressivement.
Ouais, d'accord.
Mais oui, c'est l'avenir, c'est ce qui va arriver. Donc tu vas pouvoir et faire partie dans certains jeux, tu pourras par exemple incarner un aigle et voler au-dessus du joueur et même ailleurs en fait, sans jouer. Tu seras un PNJ. Mais si ça t'intéresse de le suivre dans son aventure à l'intérieur du jeu, comme si tu jouais avec lui. Mais sans jouer, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Mmh. Ou alors, bah, comme tu disais, NBA Live, bah, tu veux être son adversaire, le battre sur le terrain de basket, et bah, pourquoi pas, quoi.
Ouais.
Donc ça peut être intéressant.
Ouais, ouais.
Donc ça va venir. Hein. Ça va venir.
Voilà, donc c'est le futur du jeu vidéo sur Stadia, et on vous en parlera ici dès qu'on en saura un peu plus. Enchaîne, on parle des apps.
Ouais, on va quitter un peu Stadia, on va aller voir les apps de Google et tu voulais me parler de Google Maps.
Ouais, alors c'est moi qui ai mis cette nouvelle là. Donc ça avait été annoncé quand est-ce que ça avait été annoncé ? À Google I/O, je crois. Ça a été annoncé il y a un petit moment et ils ont mis du temps à lancer ça. Il y a des on pourrait vous parler des Pixel Buds un peu dans la même veine, il y a des choses comme ça qui sont annoncées, qui sont disponibles tout de suite et puis d'autres qui sont annoncées et puis 6 mois plus tard, on les attend toujours. Mais bref, donc là, c'est Google Maps en mode incognito, en mode, comment est-ce qu'on dit en français ? Inconnu, non ? Incognito ? Je sais plus.
Incognito, ça marche.
Incognito, ouais. Et donc, ça vous permet de utiliser Google Maps sans que Google ne retienne les endroits où vous êtes allé, les recherches que vous avez faites, etc., etc. Parce qu'il faut savoir que dans Google Maps, il y a de plus en plus de publicité. Et donc, du coup, bah, de la même façon que de temps à autre, vous avez envie de faire des recherches sans forcément être... recibler, retargeter derrière par de la pub, eh ben vous pouvez faire la même chose maintenant sur Google Maps. Donc voilà, je sais pas. J'ai testé vite fait, ça marche. Mais je sais pas, toi, tu vas utiliser ça, Nico?
Okay. Non. Comment te dire? Je l'utilise déjà jamais sur mon navigateur, je crois. Si seulement quand je fais une recherche pour un cadeau pour quelqu'un qui potentiellement pourrait ouvrir mon ordinateur, tu vois.
Ouais.
Mais je l'utilise pas. Sur Google Maps, je l'utilise pas non plus. Par contre, j'ai un projet de piller une banque. Et du coup, je me dis que si Google ne sait pas que je suis en train de faire ça,
bah, typiquement,
ça peut être intéressant.
Ouais, typiquement, c'est dans ce genre de situation que c'est important de.
Que
passer en mode incognito. Ouais. Tu mets ton impair, ton gros impair, tes lunettes noires et ton chapeau, et hop.
T'as vu l'icône, hein, bah c'est ça. Hein. Un chapeau, ouais. Des lunettes noires, et ça fait presque pervers d'ailleurs. C'est, mais ouais, non, mais si vous. Moi, j'arrive, je sais pas. Ouais, c'est bien, sûrement qu'il y en a qui vont l'utiliser. Dites-moi hein, pourquoi vous l'utiliseriez, à part pour aller voir votre maîtresse ou je sais pas, piller une banque ou je sais pas moi.
Mais je pense que c'est, enfin en fait c'est marrant, j'ai du mal à le justifier là quand on en parle, mais en même temps je vois très bien l'usage, ne serait-ce que pour YouTube par exemple ou pour qu'est-ce que je pensais l'autre jour ? Ah ouais, j'utilisais Spotify. Bon, Spotify, c'est pas un produit Google. Mais je sais que sur Spotify, il y avait à une certaine époque un mode lecture privée. C'est vrai que de temps en temps, moi, ça me fatigue, en fait, de voir un truc qui va directement modifier mes recommandations. Les recommandations sont devenues tellement importantes sur ce genre d'outils-là que, du coup, quand tu recherches quelque chose... peut-être que c'est moins un problème pour Maps, encore une fois, parce que c'est pas comme si j'avais envie qu'on me recommande toujours les restaurants d'un même type ou autre, mais enfin, des fois ça m'arrive de regarder des trucs sur YouTube juste par curiosité ou juste parce que je me dis, bon tiens, qu'est-ce que c'est ce truc dont tout le monde parle, mais j'ai pas du tout envie dans les 3 semaines qui suivent d'avoir des vidéos qui me recommandent ce sujet-là. Et à l'inverse, il y a des choses que je recherche ou que je regarde où je me dis bon bah ça c'est des trucs qui m'intéressent donc toutes les vidéos qui parlent de ce sujet-là bah ouais éventuellement mets-les-moi en recommandation et puis je déciderai plus tard si j'ai envie de la regarder ou pas quoi. Et donc je me dis cette logique-là la retrouver dans Maps même si enfin dans Google Maps ouais même si j'en ai pas forcément directement besoin aujourd'hui bah je me dis que c'est pas forcément une mauvaise idée.
Ok je ouais ok. Je ouais.
pas trop convaincu mais un peu quand même.
Non mais si non mais je comprends l'idée mais qui va déjà aller ça veut dire qu'il faut que tu l'actives. Moi alors je l'ai depuis les débuts hein ce truc là parce que je suis bêta testeur sur Google Maps. Je l'ai jamais activé je crois. Je sais même pas comment on fait. Attends, je regarde où est-ce que je fais ça? Ah si, activer le mode privé.
Ouais,
alors déjà faut cliquer dans l'icône en haut à droite de ton compte.
Ouais.
Il faut cliquer dessus et ensuite il te dit qu'il enregistrera pas ton historique de navigation, pas ta position et toutes tes personnalisations, tu les as pas. Donc, en fait, c'est pareil. Ouais, comme tu as raison. Ouais, tu vois, par exemple, il va me proposer un resto où je suis jamais allé, par exemple.
Ouais.
Ouais, mais je sais pas. Joker. Ça doit être utile pour beaucoup de monde, hein, j'imagine. Sinon, ce serait pas embêté à le faire.
Ouais.
Donc, dites-moi sur Twitter, dites-moi dans les commentaires de l'épisode ce que vous allez faire. Non, me dites pas ce que vous allez faire avec Incognito, mais peut-être à quoi ça pourrait servir. Me dites
pas. Est-ce que vous voyez l'intérêt d'Incognito? Dites-nous.
Voilà.
Et par contre, une autre. Excuse-moi. Non, t'as fini? Non.
Vas-y.
C'est bon. Ouais. Donc Incognito, bon ça t'a pas convaincu. Par contre, dans Google Maps, il y a une nouvelle fonctionnalité pour les propriétaires de véhicules électriques.
Ah ouais, c'est génial. Ta voiture, elle est toujours à l'énergie fossile.
Elle est au jus de dinosaure.
au jus de dinosaure, comme diraient certains, l'énergie fossile. Eh ben, moi aussi, pour l'instant, malgré tout, je cherche à changer de voiture. Je s'attendrais vers une Tesla, mais bon, les budgets, c'est pas forcément ça. À vos Tipeee, si vous voulez que j'achète une Tesla. Beaucoup de Tipeee, hein. Je vais dormir beaucoup d'heures. Aujourd'hui, il y a une grosse problématique sur le marché de l'électrique, c'est que la norme n'est pas définie. Alors, si je te parle de J1772, de CCS, de type 2, de CCS2, de Shadmo ou de Tesla, pour toi, ça veut dire quoi ?
Bah, je sais que tu as dit Tesla à la fin, donc du coup, ça me met un peu la puce à l'oreille. Mais sinon, non, ouais. Ça fait penser à des noms de magnétoscopes, ouais, de la marque JVC.
C'est ça, exactement. ou un langage de programmation.
C'est
il y a
vrai.
Du CCS.
CCS, comme ça. Ouais.
Et non, malheureusement, ce n'est pas ça. Tu as perdu. tu reviendras en deuxième semaine. Non, c'est les formats de prise électrique pour recharger tes véhicules. Donc, en fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Personne n'a statué sur le format de la prise. Donc, chacun y va de son petit truc. Donc, chacun a inventé sa propre prise. Alors, il y en a, c'est des ronds, d'autres, c'est des carrés. Donc, il y a trois broches, donc il y en a que deux. Bref, en gros, si tu ne sais pas où est la borne pour recharger ton véhicule et que le constructeur n'a pas fait le nécessaire dans le GPS de ton véhicule pour t'indiquer où il y a des bornes de rechargement, eh bien, aujourd'hui, Google va prendre le pas. Maintenant, sur Google Maps, maintenant, dans quelques semaines, hein, pas tout de suite, pour les bêta-testeurs, c'est tout de suite, pour les autres, pas encore. C'est surtout aux États-Unis pour l'instant que c'est mis en place et ça va venir progressivement en France. Tu vas pouvoir savoir quelles sont les stations de rechargement adaptées à ton véhicule et où elles se situent. Et du coup, tu vas pouvoir faire ton itinéraire rien qu'avec ça. Alors, ceux qui ont des voitures électriques vont me dire « Ouais, mais c'est déjà peut-être intégré dedans, j'en sais rien, je n'ai pas de voiture électrique. » Mais moi, j'ai trouvé ça génial parce que j'essaye de m'équiper de ça. Et l'autre fois, j'ai regardé quel type de voiture prendre et justement comment recharger, tu vois, pour savoir l'autonomie de la batterie, si elle fait 150 bornes. Est-ce que je peux aller quand même jusqu'à Marseille depuis chez moi? Et comment est-ce que je suis pas obligé de faire un détour de 8 heures pour pouvoir me recharger ma voiture parce que ça fait 800 km Bah, j'ai galéré, j'ai pas réussi à trouver en fait. Puis j'ai même pas réussi à trouver les prises qu'il y avait dans telle ou telle voiture. Alors pour te dire, Tesla, ça va. J'ai bien compris que c'était Tesla, mais tous les autres types, là, je sais pas quelle voiture utilise ça.
Non, et donc, c'est pas évident.
Et Google Maps, elle l'implémente directement dans Google Maps, pardon.
Ouais, alors que Google Maps te répond.
Et donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant pour les utilisateurs de voitures électriques. Ceux qui l'utilisent, est-ce qu'ils sont contents ou est-ce qu'en fait, ils s'en fichent? Ça serait bien que je le sache aussi parce que j'essaye de m'équiper, j'essaye de savoir quelle voiture pourrait me convenir le plus. Évidemment, je veux du Google à l'intérieur parce que comme ça, ils pourraient me donner Google Maps et les prises de rechargement. Donc, ouais, ça peut aller dans les systèmes Android Auto, en fait, j'imagine qu'ils vont mettre ça là-dedans, en fait. Enfin, je sais pas ce que toi t'en penses avec ton véhicule en jus de dinosaure.
Ouais, bah non, c'est clair que de toute façon l'électrique a priori ça reste l'avenir. Hein. En Europe d'ailleurs, en Europe comme aux États-Unis, on a quand même beaucoup de retard par rapport à la Chine, étonnamment, hein, même s'ils polluent beaucoup parce qu'ils sont nombreux, ils sont très 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 en avance sur les questions de véhicules électriques. Et c'est vrai que bah oui, c'est pas forcément un problème urgent à régler, quoique. Mais dès lors que tu auras de plus en plus de gens qui ont besoin de recharger leur véhicule, bah il faudra fournir cette information là. Donc Google prend de l'avance. Mais ça me fait un peu penser, tu sais, si on revient avant l'USB-C, avant le comment ça s'appelle, l'USB mini ou micro, il y avait tous les téléphones avaient des chargeurs différents et avaient leur propre chargeur, et finalement les voitures, bah c'est un peu ça aujourd'hui, quoi. C'est chacun a son propre embout en fait, et t'es obligé de te balader avec ton chargeur pour pouvoir charger ta voiture, quoi.
Qui est le parallèle avec les smartphones, c'est intéressant parce qu'en fait, s'ils se sont mis d'accord, les constructeurs, c'est parce que les États les ont obligés de se mettre d'accord. Mm-hmm. Et donc, pour les voitures électriques, ça va être la même chose. Hein. Je crois que l'Europe est en train de statuer ou a déjà statué, je ne sais pas encore, sur ça. Donc, aujourd'hui, c'est intéressant que Google l'implémente dedans, mais dans 6 mois, un an, je ne sais pas dans combien de temps peut se mettre d'accord les constructeurs. Mais d'ici quelques années, techniquement, on n'en aura plus besoin. Aujourd'hui, tu vas à une station essence, tu ne cherches pas à savoir s'ils ont ou pas ton essence, ils l'ont. Ouais. Donc chercher s'ils ont le bon câble ou pas le bon câble, la bonne prise ou pas, ça va être vite très... Et c'est un frein, hein, c'est un frein à l'adoption des véhicules, je pense. Donc, le jour où tout sera normalisé, le problème, c'est que chacun... Tu vois, Tesla, il a investi je sais pas combien de milliards sur la France pour installer des bornes de rechargement. Mmh. Est-ce qu'il voudrait encore réinvestir pour changer, juste se mettre aux normes? Je sais pas, en fait. À voir.
Ouais, c'est une bonne question. C'est vrai, ouais. Mais bon, malgré tout, hein, moi j'entends de plus en plus parler des réseaux de chargeurs. Je sais que justement Tesla, là, en tout cas aux États-Unis, sur le continent, même en dehors des États-Unis, même au Canada, en Amérique du Nord, y a aucun problème, quoi. T'as des chargeurs partout, donc des fois faut faire un petit crochet, ouais. Et puis bon, bah t'es obligé de faire une pause, des fois obligatoire, de 45 minutes pour recharger ta voiture, mais sur les longues distances. Mais malgré tout, tu trouves quand même assez facilement des recharges, quoi.
Fou, je trouve, hein, moi, justement, qu'on puisse pas recharger une voiture en 30 secondes, enfin en 30 secondes, en 5 minutes comme on le fait aujourd'hui, mais les stations essence, elles vont gagner un blé de fou, hein. Si elles mettent des... Enfin, moi, je serais total, j'en mettrais dans toutes mes stations. Et en plus de ça, je mettrais la possibilité d'acheter un café, des croissants, des... Ouais. Créer un univers où ben branche ta voiture et viens t'amuser. Je te donne ton wifi gratuit, mais en échange tu me bois un café, tu manges, tu t'amuses, t'essayes de créer un peu de ludique autour de ça. Ça change la vieille, enfin l'odeur d'essence qu'il y a dans les stations où t'as pas envie de rester. Là, s'ils font des choses un peu cosy, les gens vont y rester un peu plus parce que de toute façon ça sera un lieu de vie après, parce que t'as pas le choix. Ça met 45 minutes. Tu fais quoi pendant 45 minutes?
Ouais, c'est clair.
T'attends pas à côté de ta voiture.
Non. Là, t'as intérêt, là, tu les collectionnes, les points ESSO, pour acheter les albums Astérix, quoi. Parce que, du coup, tu t'occupes.
Ouais. C'est ça, ouais. Donc, mais c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est plutôt, ils vont perdre, ils vont vendre moins d'essence, mais ils vont se rattraper sur le reste, hein, t'inquiète pas. Et ouais. S'ils ont pas moi, je serais total. Aujourd'hui, je commencerais déjà à faire ça, en fait.
Ouais, après, je pense que pour, bienvenue dans la voiture électrique show. Je pense que les technologies des batteries vont pas mal évoluer dans les années à venir, et justement l'autonomie va augmenter. Pour l'instant c'est assez linéaire, on va dire, mais je pense que ça va changer. Et puis pareil, la durée de rechargement, à mon avis, ça va s'améliorer. On se rend pas compte, hein, mais en l'espace de 10 ans il y a vraiment des progrès phénoménaux qui ont été faits sur les voitures électriques. Nous, enfin, comme tu dis, hein, ni l'un ni l'autre, on est utilisateur, et c'est vrai qu'on a quand même un peu l'impression que bah, y a pas forcément grand-chose de nouveau en pratique, en termes d'autonomie par densité, enfin l'autonomie par densité et les durées de rechargement. Il y a quand même des gros progrès qui ont été faits en l'espace d'une dizaine d'années, et je pense que ça va s'accélérer là.
Et là, je mettrai un lien. Je te coupe deux petites secondes. Je vous mettrai un lien d'un utilisateur de Tesla que je suis au quotidien, qui s'appelle Bob Jouy, qui a justement expliqué qui a levé tous les voiles bizarres autour de la recharge électrique. En fait, il a fait un article qui est super intéressant sur son blog, qui parle de voilà ce qu'on nous dit, voilà ce qui est sur le papier, et voilà ce que je vis réellement. Donc lui, il a une Tesla. Et il en était plutôt content. Il explique tout sur son site internet, et c'est vraiment très très sympa et très intéressant, parce que c'est vraiment la vision d'un utilisateur du quotidien d'une voiture électrique, en l'occurrence une Tesla. Mais il explique que lui, il vient déjà, enfin il a jamais conduit de voiture autre qu'électrique. C'est un jeune, hein, il est très très jeune, hein, du coup, mais c'est vraiment super intéressant. Je vous mettrai le lien dans le nom de l'émission. C'est son site web, c'est Bob B0B.fr, et il explique vraiment tout sur les voitures électriques. C'est vraiment super bien fait.
D'accord. Donc voilà, donc ça c'est la parenthèse voiture électrique, mais on revient à Google et au Google Apps. Là c'est plus le navigateur, et même pas le navigateur, mais le moteur de recherche à part entière, parce que c'est comme ça Google a démarré. Hein.
Ouais.
Et donc ils ont modifié leur algorithme de recherche. Nico, tu nous expliques un petit peu?
Alors ils l'ont modifié, alors ça fait un grand bruit, apparemment d'après les pontes de Google. Je vais pas donner le nom parce qu'on va en reparler plus tard. Ils ont en milieu d'année, ils ont changé l'algorithme. Alors j'ai pas le nom, parce qu'ils donnent toujours des petits noms sympathiques aux algorithmes de Google. Donc ils l'ont changé pour le rendre plus humain, entre guillemets. C'est-à-dire que auparavant, on utilisait tous la même chose, la même façon Google. C'est-à-dire qu'on mettait un mot clé, genre tu cherchais voiture électrique, tu tapais voiture électrique, tu vois, bêtement. Et lui, il cherchait voiture ou électrique, ou les deux. Mais si tu faisais, t'avais un mot de liaison ou un mot, je sais pas, voiture électrique sans prise J172, si personne n'avait fait ça, c'était compliqué. Enfin bref, ça cherchait pas comme ça. Et aujourd'hui, avec les assistants personnels, Google s'est aperçu que les gens commençait à parler normalement à son navigateur web. C'est-à-dire qu'on fait des vraies phrases maintenant. On met des mots de liaison, on met des ponctuations, on fait des choses comme ça. Et donc, Google a implémenté ça avec un algorithme qui comprend ta phrase dans le contexte global et pas mot par mot. Ce qui fait que aujourd'hui, on a de plus en plus de recherches sur Google qui sont « Comment réparer mon frigo avec un tournevis cruciforme ?» Tu vois, toute la phrase « Je ne répare pas de frigo avec un... Je répare pas de frigo, hein, vous embêtez pas. » Mais ça peut être une phrase « Comment faire quelque chose avec quelque chose ?» En fait, on a des mots de liaison qui sont importants. Ça a un peu bouleversé le web parce que il y en a beaucoup qui avaient un SEO qui n'était pas du tout fait comme ça, qui n'était pas construit comme ça, donc qui se sont retrouvés un petit peu dépositionnés alors qu'ils étaient très, très bien placés sur le navigateur, sur le moteur de recherche. Mais ça va... En fait, c'est dans l'air du temps. Ça va avec les interactions qu'on peut avoir avec l'assistant personnel vocal. Donc, cette fois, on lui fait des vraies phrases. On ne dit pas juste « allume lumière ». Tu vois, on dit « allume la lumière » parce que on parle comme ça. Quoique, dans 10 ans, peut-être qu'on ne parlera plus comme ça. « Allume lumière ». On va devenir débile à cause de ça, peut-être, mais je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Mais donc, ils ont modifié pour avoir un discours plus phrasé, plus humain, en fait. Donc, moi, je trouve que c'est bien, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais au moins, on a des recherches un peu plus ciblées.
Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne chose, on va dire que c'est comme tu dis, hein, c'est ce que les gens utilisent, hein. Je pense qu'ils font ça aussi parce qu'ils se rendent compte que c'est comme ça que les gens utilisent leurs produits, donc du coup... Ouais. Voilà, il a juste à l'usage.
C'est ça. Et je voulais en parler à la fin, mais je le mets tout de suite. Si on parle d'assistant personnel, je vais parler de ça. Attends, je te le mets dans les notes de l'émission. Est-ce que tu veux que j'en parle tout de suite?
Allez, on enchaîne. On en parle. Vas-y.
Allez, on en parle. Allez, mec, de toute façon, je t'ai un peu imposé le truc, quoi. Parce que maintenant, si tu me dis, bah non, on n'en parle pas, les gens, ils vont me dire, mais de quoi tu parles pas? Trop tard, j'en parle pas. Il m'a dit, j'en parle pas. on a parlé de YouTube tout à l'heure pour Stadia, pour streamer les jeux vidéo. On parle de l'assistant personnel qui comprend mieux ce qu'on lui dit. Alors, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est Noël. Enfin, demain, peut-être. Bientôt. Nous, on enregistre, on est le 23, donc dans 2 jours, c'est Noël. Et tiens, cette année, tu m'as pas fait ho, ho, ho. Tu sais que l'année dernière, bref. dans 2 jours, c'est Noël. Et du coup, Google s'est dit, tiens, je vais faire un cadeau à mes utilisateurs. J'ai envie qu'ils restent chez moi, qu'ils soient bien à la maison. Donc, si vous êtes abonné YouTube Premium ou YouTube Music, vous avez la possibilité, vous le savez peut-être, vous avez reçu un mail. Si vous ne l'avez pas reçu, regardez vos mails parce que ça peut être intéressant de vous faire offrir par Google un nouveau Google Nest Mini. Alors, on est bien sur le nouveau, hein, pas les Google Home Mini, mais le Google Nest Mini. Vous avez possibilité de vous faire offrir ça. Donc, c'est 59€ offert, les frais de port offerts également. Et ça, pour Noël. Donc, vous avez jusqu'au 22 janvier, je crois, dans mes souvenirs, pour vous, pour le commander et le recevoir à la maison. C'est toujours sympa. C'est un cadeau. Ça se refuse pas. Faites comme moi. Alors, prenez-les, empilez-les. Et c'est fait super joli. Ça fait une pile de Google Mini chez moi. C'est vraiment très sympa. Tu me disais que toi aussi, tu les empilais.
Ouais, j'en ai trop là. J'arrête. Je les refuse. Non, désolé. Il n'y a plus de place.
Ouais. Et moi, mon entourage, ils en ont tous aussi maintenant parce que je leur offre tous tout ce que j'ai. Ouais. Donc, ça prouve que mais je suis voilà. Abonné chez Google.
Donc si vous avez Google Premium et que vous en avez encore besoin ou que vous en avez encore l'utilité, allez-y, demandez votre Google Mini, il l'envoie gratuitement. Ouais. On passe à la dernière section de l'émission.
Ouais, que j'ai nommé sobrement les gros sous.
Les gros sous.
Les gros sous. On va parler d'argent, beaucoup d'argent. On a décidé cette fois d'être objectif complètement. C'est un truc de fou. Je vais parler de Google qui prend une amende. Voilà. Ouais, voilà, maintenant, on parle d'autre chose. Hein, non. Ah, faut qu'on détaille.
Faut qu'on détaille, faut qu'on explique pourquoi. Donc, 150 millions d'euros, ça fait beaucoup tout ça.
Ouais. Bon, pour Google, je sais pas si ça fait beaucoup, mais c'est pour vrai. Moi, c'est énorme, hein, parce que, mais pour Google, c'est peut-être pas tant que ça, mais c'est une grosse, grosse amende. C'est l'autorité française de la concurrence qui donne une petite amende de 150 millions d'amende à Google pour abus de position dominante sur sa partie publicité, sur le marché de la publicité. On le sait, ils sont aujourd'hui les meilleurs, hein, enfin les meilleurs, les plus présents en tout cas sur le marché de la publicité. Mmh. C'est pas les seuls, hein. On a Amazon qui est quand même pas mauvais, Facebook qui est pas non plus mauvais. Ils prennent une amende parce que techniquement, les règles de fonctionnement de Google Apps sont pas très très comment dire claires. la suppression des comptes ads ne sont pas non plus très très claires. Donc du coup, l'autorité de régulation leur a dit, ben éclaircissez ça. Si vous le faites pas, c'est 150 millions d'arons. Bon, déjà c'est 150 millions, hein, déjà. Et si vous le faites pas, on continuera à vous amender plus tard. C'est pas la première amende qu'ils prennent. Ils ont déjà pris 50 millions par la CNIL. Ils n'arrêtent pas de prendre des amendes en ce moment. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on a décidé de boucher le trou de la sécu en France. Je ne sais pas, mais ça marche.
Demande à Google. Ouais, c'est ça.
Demande à Google. Bah oui, on m'a toujours dit, fais OK Google, tu peux te boucher, reboucher le trou de la sécu. Donc, tu vois, ça marche. Enfin, voilà, une amende qui, somme toute... C'était toi. Il recherche sur le web, il est gentil. Donc du coup, il y a une grosse amende qui montre aussi qu'il faut pas faire n'importe quoi. Je pense que c'est normal de clarifier ça parce qu'apparemment c'est vraiment très obscur pour l'attribution des la publicité et puis la suspension des comptes. Donc tu pouvais, si Google ne voulait plus de toi pour X raisons, même si tu enfreignais pas certaines règles de chez eux, arrêter ton compte directement, brutalement. Donc c'est pas forcément très bien.
Ouais, c'est clair que c'est très c'est compliqué quoi. La régulation est quand même très à la traîne. C'est le cas en Europe, je pense que finalement c'est presque mieux qu'aux États-Unis. Mais on sent que c'est compliqué là, réguler les géants de l'internet, c'est difficile quoi. C'est on sent que les sociétés
on les a laissé faire ce qu'ils voulaient, mais parce qu'on ne connaissait pas. Et aujourd'hui, si on les avait restreints, enfin si quand ils sont créés, quand on les a créés, on les avait restreints. Aujourd'hui, ils ne seraient pas ce qu'ils sont. Ouais. Ce ne seraient pas des géants. Est-ce que si on restreint tout le monde, on ne peut pas avancer? Parce que l'avion s'est crashé quand on le testait, on avait interdit le vol, bah aujourd'hui, on n'aurait pas d'avion. On ne peut pas réguler avant que ça soit fait. On peut imaginer, mais si on bloque tout de suite, c'est dommage. Et puis tu vois, on a bien fait de pas réguler, on vient de récupérer 150 millions.
Tu peux toujours récupérer de l'argent après. Donc, ça c'est la première étape des gros sous. La deuxième étape, donc on parle de Sundar.
Ouais, Sundar Pichai, qui est devenu le boss d'Alphabet. Alors, c'est pas un petit inconnu, hein, ce mec-là. Tu le connais? Tu peux en parler un petit peu ou tu veux?
On peut en parler un petit peu, mais c'est vrai que donc Google pour récapituler l'histoire un petit peu. Donc, ça a été créé par deux fondateurs, donc Sergey Brin et Larry Page, en fin des années 90. Ils ont été quand même très présents au début, et puis au fur et à mesure, on sentait qu'ils étaient de moins en moins présents, voire quasiment absents. Et ils se focalisaient sur des projets presque des hobbies ou des projets un petit peu annexes. Donc il y a des sociétés, ils ont créé des sociétés qui appartiennent au groupe Alphabet mais qui se focalisent sur des sujets différents, genre par exemple combattre la mort, voilà, rien que ça. Je crois que c'est Larry Page qui a investi dans une société qui s'appelle Kitty Hawk qui fait des en gros, pour l'instant, c'est plus des drones habitables volants, mais l'idée, en gros, c'est de développer un système de voitures volantes. Donc ça pour dire que Google et la publicité sur Internet, c'était plus forcément leur priorité. Et donc Sundar Pichai a été depuis un petit moment déjà été le président, le CEO de Google, donc pas le président, mais le CEO. Et le président, c'était Larry Page, le président du conseil d'administration. Et donc là, ils prennent un peu de recul et donc du coup, ils laissent tous les rênes à Sundar Pichai, qui, en effet, c'est un peu le boss de Google depuis déjà plusieurs années. Hein.
Mais en fait, Sundar Pichai, il y a quand même un moment qu'il est mis en avant par les deux autres. Hein. Quand il faut défendre Google au Sénat ou je sais pas où aux États-Unis, c'est lui qu'on voyait, c'est lui qu'on envoyait en première ligne. Quand on doit se défendre face à ses employés qui dit que Google devient le démon, c'est lui qui expliquait les choses. Quand il faut prendre des décisions importantes, c'est lui qui le faisait également. Donc ça fait déjà deux ou trois ans, peut-être même plus, où de toute façon on ne voyait plus Larry Page sur au Google.io, on les voyait plus. Ouais. Le seul qu'on voyait, c'était lui. Pour aller encore plus loin, ce petit bonhomme-là, donc il est arrivé développeur hein, chez Google, hein, quand même. Mm-hmm. Moi, je vais faire un film de lui. Je vais t'appeler toi. Tu feras la traduction pour qu'il me dise à moi, parce qu'il va me dire des trucs que je comprendrai pas. Donc, mais il faut en faire un film. Le bonhomme, dans le le bonhomme dans le sens un bon bonhomme, un homme bon en fait. Le bonhomme, il vient d'un, comme je te disais, il vient d'un village perdu au fin fond d'un pays où personne ne va pas. Ça pourrait faire une chanson, ça. Tiens, je vais le reprendre. Et il avait pas de moyens. Ses parents étaient plus que pauvres. Il vient aux États-Unis, il devient développeur chez Google. Il monte les échelons. Il pousse Chrome quand même. C'est le mec qui pousse Chrome chez Google. Il pousse Chrome OS. Alors pour nous, c'est génial parce qu'en fait, le mec, il croit vraiment au Chromebook. C'est lui qui a présenté le CR48, vous le savez pas, mais en 2009, il a été sur scène avec le premier Chromebook en disant c'est l'avenir. Le mec, il avait vu 10 ans auparavant que les Chromebooks allaient être ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, pour certains, ils ne sont rien, pour d'autres, c'est beaucoup. C'est 6% du marché mondial quand même pour un produit qui vient de nulle part. Et c'est Sundar Pichai qui a mis en avant tout ça et qui fait que aujourd'hui Google est Google. Alors les autres ont quand même bien bossé.
Ouais, non, donc, c'est ça. C'est vraiment celui qui est à l'origine du renouveau de Google. Enfin, pas du renouveau, mais en tout cas du succès des 5 dernières années de Google, quoi.
Ouais, c'est un visionnaire. Hein. Il est vraiment bon et apparemment c'est un très bon chef d'après ce que j'ai entendu. Toi, t'as des contacts chez Google, t'as des amis qui travaillent chez Google.
Ouais. Non, c'est ça. C'est bon. Alors, il est pas parfait non plus et on sait que Google défrait la chronique en pas toujours en bien assez régulièrement, mais il est quand même assez bien vu en interne. Ouais, c'est sûr. Aucun doute là-dessus.
Un Steve Jobs, quoi, qui n'était pas très très bien vu interne.
Ouais, bah c'est ça. C'est compliqué hein, d'être à la tête d'une boîte comme ça. Et puis c'est très politique. Et puis bon, enfin bref, c'est pas non plus. Ça peut être une boîte qui fait envie de l'extérieur. En pratique, il y a quand même. C'est quand même pas forcément tout le jour la fête. Et bon, du coup, quelqu'un comme Sundar, en général, ses réactions sont assez équilibrées et son leadership est globalement assez respecté. Même si, bon, il fait pas complètement toujours l'unanimité. Mais bon, ça c'est. C'est comme ça que ça se passe, malheureusement.
C'est compliqué de faire l'unanimité sur combien de millions d'employés, quoi. Enfin,
ouais, ils sont à tout le monde. Ouais, 40 000, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est, ouais. Mais c'est pareil, il y a 5 ans, je crois qu'il y a 7 ans, Google faisait moins de 10 000 personnes. Donc ça donne un petit peu une idée de la croissance, ouais. Même si on a l'impression que Google, en gros, a toujours été Google depuis le début, en l'espace d'une dizaine d'années. Enfin, c'est vraiment une croissance exponentielle. Quand on Google sur Google, c'est un peu difficile d'avoir des informations. Mais je suis en train d'essayer de trouver la page Wikipédia et employé, je n'arrive pas à trouver. Bref, mais je vais trouver. Je te laisse meubler. Mais ça pour dire que. Vas-y.
Ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux, ils sont présents. Et donc Sundar Pichai va. Moi, j'avais peur un petit peu pour te dire. Google, c'est tellement puissant. Je le compare souvent à Big Brother. Tu sais, le livre 1984, c'est ça. Je le comparais souvent à ça. Tu remplaces Big Brother par Google, en fait, il fait la même chose. Et tant que c'était dans les mains de Larry Page et de Sergey Brin, je me disais, les mecs, ils l'ont inventé. Ils veulent pas que leur bébé devienne un tueur en série au niveau mondial. Mais qu'est-ce qu'il en sera quand eux ne seront plus là? Bon, il faut savoir quand même qu'ils ont gardé la majorité des voix. Hein. Donc, même s'ils sont plus à la tête de Google, c'est eux qui ont les décisions finales. Hein. Quand même.
Absolument. Ouais.
Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer après eux, en fait? Quel est l'avenir de Google? Est-ce qu'il va pas? Si ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut devenir une arme, en fait. Ça peut être très, très puissant. Ça l'est, hein, déjà. Ça peut renverser des gouvernements. Mais aujourd'hui, c'est pas l'objectif de Google. Mais dans 5 ans, 10 ans, je me disais, mais si ça tombe dans les mains d'un dictateur, c'est le mec, c'est devenu un fou et il veut gouverner le monde. Il a le pouvoir, ils sont autonomes en énergie. Ils ont leurs propres câbles sous-marins, ils ont leurs propres satellites. Ils ont des satellites, eux? Non, je sais pas.
Non, je crois pas. Mais ouais, non, mais c'est ça, ça reste une boîte, ça reste un mastodonte, quoi.
Ouais, et donc, moi, ça me rassure de voir ce personnage-là à la tête d'Alphabet. Parce que il est dans la continuité. Donc du coup, ça me laisse un peu de répit, une quinzaine d'années, parce qu'il est là pour un petit moment. Quoique ça doit être hyper crevant comme métier, mais il est là pour un petit moment et ça me rassure un petit peu sur l'avenir de Google, sur la direction prise par Google. Après, on verra ce qui se passera, mais pour l'instant, c'est plutôt bon.
Ouais.
Moi, j'ai rien d'autre à rajouter sur lui, même si je l'aime bien.
J'allais dire, a priori, Google a plus de 100 000 employés aujourd'hui, mais C'est en fait c'est le groupe Alphabet, mais ça doit inclure les gens qui sont les gens qui sont pas directement employés mais qui passent par consultants. Mais bon, donc ça reste ça c'est énorme quoi, plus de 100 000 employés, ouais. Voilà. On passe à la suite, Fitbit. Tu veux parler de Fitbit rapidement?
Ouais, tu le connais, tu
l'utilises? Moi, je suis pas utilisateur de Fitbit, non, mais je sais ce que c'est. Ah. Ouais. Et toi?
En gros, moi je n'en utilise pas. Non. Moi, je suis très très montre. J'habite à côté de la Suisse, donc tant que j'ai pas une vraie montre mécanique avec de la technologie dedans, je change pas. Je vais pas changer, sauf si on m'en offre une. Et merci si vous me l'offrez, hein, je la prends quand même. mais je suis très très montre mécanique. Donc du coup, ça m'intéresse pas. Mais Fitbit, ça reste l'un des leaders, voire le leader je sais pas si on peut appeler du bracelet connecté de fitness, de sport.
Ouais.
On peut le dire comme ça. Mm-hmm. Ouais, c'est pas la montre qui est mise en avant chez Fitbit à la base. C'est juste un bracelet qui te permet de voir tes pulsations, ton rythme cardiaque, toutes des choses comme ça qui sont très bons pour les sportifs, visiblement. Vous l'avez compris, je ne suis pas un sportif. Ils doivent être dans les trois plus grosses ventes au monde de bracelets connectés. T'as Apple, qui est leader, t'as Samsung, qui vient juste en deuxième, et Fitbit est troisième. Et on voit, il y a un inconnu aujourd'hui, il y a une grosse inconnue, mais où est Google? Eh oui, avant on cherchait Charlie, maintenant on cherche Google dans les montres connectées. Tout le monde avait pensé, moi le premier, hein, à la dernière Google I.O., je pensais que Google allait nous proposer une montre. C'était le temps, je sentais comme ça.
Tout le monde l'espérait. Ouais.
Ouais, ils avaient racheté une partie de, comment ça s'appelle, Fossil, marque Fossil, les montres Fossil, qui sont plutôt, somme toute, sympathiques en termes de design. Mm-hmm. Mais ils n'ont rien fait, donc tant pis. Et là, ils ont racheté enfin Fitbit, Google. Pour la modique somme de 2,1 milliards de dollars. Alors, quand on parle de 150 millions de dollars d'amende, tu me fais bien rire, mon petit monsieur. ils ont racheté donc pour 2 milliards Fitbit. Donc là, cette fois, c'est clair, c'est sûr. Ils vont pas laisser le marché à Samsung ou à Apple. Ils vont essayer de truster la troisième place au minimum. Déjà, avec Fitbit, ils ont la troisième place. Tous les utilisateurs de Fitbit ont reçu une notification leur disant qu'ils avaient été rachetés par Google. La question qui est, c'est Google donc achète ce système-là pour le côté médical, Fossil pour le côté design et usage. Est-ce qu'ils veulent en faire des bracelets médicaux, des choses comme ça? Est-ce qu'ils veulent faire de la montre? Tu vois, on le voit, Apple aujourd'hui se lance sur le médical avec leur montre qui fait montre. Si dans leur publicité, dans la publicité qu'ils font, ils disent qu'elle donne l'heure quand même. Mais tous les bracelets connectés se connectent à ton corps maintenant. Ils ont le nombre de pulsations, ils ont pourquoi pas le taux de glycérine. Enfin, je sais pas quoi. Enfin, j'y connais rien. Glycérine dans le corps, c'est peut-être pas bon.
Glycémie.
Peut-être.
Le sucre dans le sang. Ouais, c'est plutôt ça, je pense.
Ouais, je crois. Et donc Google va se positionner. Clairement, je pense que pas le premier trimestre, mais le deuxième trimestre, tu vois, je prends des risques, hein. Toujours, j'annonce que Google va sûrement lancer un produit au courant d'année prochaine, avec Fitbit. Donc, qu'est-ce qui les intéresse chez Fitbit? Est-ce que c'est le produit ou est-ce que c'est la clientèle? Peut-être un peu des deux. En tout cas, ils se donnent les moyens de recoller à Apple, comme ils ont pu le faire aujourd'hui avec les Pixels. Tu vois, Google n'était pas vraiment pressant, mis à part Android, avec leur propre téléphone. Ils n'avaient pas leur PC, ils ont des Chromebooks. Aujourd'hui, ils sont en train de marcher sur les plates-bandes d'Apple. Clairement, c'est le marché qu'ils visent. Apple est parti avec ses montres tout seul de son côté. Google répond, ils rachètent, ils vont faire la même chose. Apple gagne des milliards avec des oreillettes sans fil, les AirPods. Google sort comment ça s'appelle chez Google? Les Buds.
Les Pixel Buds. Chez Google,
Ouais, et donc tu vois, on voit que Google a du répondant. Aujourd'hui, ils attaquent le marché d'Apple sur tous les fronts, en fait. Et sauf qu'ils ont un pouvoir assez intéressant parce qu'ils maîtrisent aussi les données des utilisateurs. Et Fitbit, c'est bien, c'est encore un moyen d'avoir plus de données. Cette fois, ils vont savoir ton état de santé. Avant, ils le savaient déjà, hein, quand tu cherchais « je vomis de la bile avec beaucoup de sang », bah, ils savent que tu es en train de mourir, par exemple. tu vois, ça, les gens faisaient des recherches comme ça. C'est le meilleur docteur, hein, d'ailleurs.
Google, ouais,
Google, c'est le meilleur docteur. Enfin, le meilleur, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est celui qui est le plus consulté.
C'est celui qui est le plus utilisé, ouais, c'est sûr.
Voilà. C'est, voilà. Ah bah, soigne-toi avec de l'homéopathie. Mets-toi un plasma d'argile sur ta plaie. Non, mais ma jambe a été coupée. Mais l'argile, ça va repousser. Bon, bref. En fait, ils savaient déjà pas mal de choses sur toi et ils vont affiner encore les données sur toi. Dire que ça deviendra des bracelets médicaux, pourquoi pas, hein, si ça peut t'éviter un AVC, par exemple, ça peut être que bénéfique. Mais même chez Apple, hein, Apple se revendique être dans 10 ans le produit qui aura le plus, la montre, la watch de chez Apple. Ils se disent que c'est le produit qui aura le plus révolutionné le monde chez Apple. Quand même, ça allait encore pas, mais c'est ce qu'ils estiment. Donc Google va sûrement pas laisser Apple partir là-dessus tout seul. Se donne vraiment les moyens de le faire. Et entre Fossil et Fitbit, ils ont quand même une base assez solide, plus leur connaissance à eux. WatchOS, voilà, qui va peut-être être WatchOS. Non, comment il s'appelle? Oui, si c'est WatchOS.
Pour iOS, ouais, c'est ça. WatchOS, ouais. C'est pour Apple. Et Wear OS, c'est pour Google.
Ouais. C'est pour Apple. Et... on voit que Google vraiment donne part un petit peu dans tous les sens pour ramener ça près de lui et va nous proposer clairement des produits connectés d'ici très très peu de temps. T'en achèteras un toi à ce moment-là ou pas?
Ouais, je pense. J'attends. J'essaye de temps en temps. J'en ai acheté une Wear OS qui était ni Fossil ni Google que j'ai fini par renvoyer parce que ça marchait pas très 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 bien, mais c'est clair que pour l'instant c'est pas trop l'idéal, hein. les produits Wear OS c'est pas encore complètement ça, mais il y a de l'espoir. Je pense qu'ils vont nous sortir quelque chose de bien là, dans les années à venir.
La grosse difficulté que j'ai avec les montres connectées, c'est leur autonomie.
Ouais.
C'est horrible. Ouais. Moi j'ai une montre classique, donc comme je te le disais, hein, je suis très montre classique et je me pose pas la question. Là, je pars à 3 semaines en vacances, je vais pas amener un chargeur supplémentaire à mon téléphone, à ma montre, quoi. Je pars jamais 3 semaines en vacances, mais admettons, même deux jours, en fait.
Ouais.
Le jour où ils auront vraiment lié les deux, une vraie montre qui te donne l'heure normalement, en fait, et plus un écran genre transparent par-dessus avec les informations, ok, j'achète. Parce que si j'ai pas mes notifications, je vais pas en mourir, si tu veux. Ouais. Par contre, bon, pas avoir l'heure non plus, tu me diras, mais je suis très attaché à ma montre et aujourd'hui je suis pas pour, mais dans quelques mois, quelques années, si ça peut m'éviter certaines contraintes médicales ou de choses comme ça. Après, le risque, c'est on va plus loin, imagine, on a les montres connectées, ton assureur vie ou ton assurance te demande tes données. Ou tu vois, t'achètes une maison, on te dit l'assurance, on va vous demander vos données cardiaques en temps réel, et si elles évoluent, et votre assurance augmente parce que vous êtes plus à risque à ce moment-là.
Ouais. Non, c'est clair que c'est un peu le risque qui fait peur à tout le monde. Ouais. Mais bon, on va voir un petit peu. Mais c'est sûr qu'ils ont quand même investi beaucoup d'argent, donc ils estiment probablement à récupérer cet argent-là d'une façon ou d'une autre. Donc à voir un petit peu. Comment ça va évoluer?
Ouais, ça devrait être bon, t'inquiète pas. On termine par juste un petit truc rapide, j'en parle pas très longtemps parce que là, il te fait très très tard chez toi.
Ça s'entend dans ma voix. Ouais, il commence à faire super tard.
Ouais, t'es en train de t'endormir, j'essaie de te réveiller, mais voilà, je suis désolé.
Dernière ligne droite.
Dernière ligne droite, on a bientôt fini. Un truc de ouf qui s'est passé, un truc de malade. Sais-tu que Google, que Amazon et que Apple, en fait, en secret, c'est des potes?
Ouais, j'ai vu ça, ouais. Donc, ils se tirent la bourre officiellement, mais en pratique, ils s'arrangent. Alors après, bon, c'est quand même un sujet très, très particulier. On parle de... C'est la Zigbee Alliance, c'est ça? Et c'est sur les questions d'objets connectés, en fait, qu'ils s'accordent.
C'est ça. Ils s'accordent... Alors, c'est pas en loose day, hein. Ils sont pas dans un bureau au fond d'une cave avec une lumière très sombre et verte en train de fumer des cigares autour d'une table ronde de poker. Non, non. Ils se sont associés donc tous pour créer un langage commun aux objets connectés. Et ça, c'est plutôt bien pour la domotique. Parce qu'aujourd'hui, tu achètes tel ou tel produit, tu n'es pas sûr qu'il fonctionne avec tel ou tel appareil. Si tu es Apple, bah, tu es obligé de rester chez Apple. Enfin, je schématise, ce n'est pas vrai. Hein, ça l'est déjà moins aujourd'hui. Mais si on veut démocratiser la domotique, il est important que tout le monde, comme les voitures connectées, marche ensemble dans le même sens avec les mêmes types de produits. Après, fera la différence la qualité des offres et des produits. Mais la norme, le langage doit être commun pour que tout le monde puisse avancer facilement. Et donc, ils sont associés, les trois, mais d'autres hein, également. Moi, j'ai noté les trois qui m'intéressaient le plus parce que c'est le plus marrant d'avoir ces trois-là. Mmh. Ils sont associés pour créer un langage commun pour la domotique. Donc, tu vas pouvoir bientôt utiliser des appareils Google sur le HomeKit et des appareils Apple sur le Google Home. Donc ça va être génial quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi qui suis de plus en plus domotisé chez moi, je trouve ça vraiment bien quoi.
Ouais. Je sais pas exactement. C'est pas la première fois hein, qu'on entend. Je me rappelle, c'était Nest qui avait lancé Thread. Je sais pas si tu te rappelles de cette norme là, qui était censée être open source et disponible pour tout le monde. Enfin, il y a quand même beaucoup d'efforts. Alors là, bon, la différence c'est que, comme tu dis, cette fois-ci, c'est quand même un communiqué commun qui a été fait et tout le monde a mis son nom. Donc Amazon, Google et Apple ont, et plus comme tu dis plein d'autres hein, on pourrait parler de Schneider Electric ou de NXP ou de je sais pas IKEA.
Donc IKEA, c'est ce que j'allais dire.
Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui font partie de la Zigbee Alliance et donc du coup ces gens-là s'engagent à entre guillemets essayer de faire en sorte que les appareils puissent communiquer entre eux même s'ils sont pas de la même marque. Je sais pas. On va voir un petit peu. On va voir un petit peu comment les choses, la direction qui est prise par ces choses-là. Mais je pense que c'est globalement une bonne chose, même si ça veut pas dire que du jour au lendemain, il faut s'attendre à ce que Google Home apparaisse sur je sais pas sur HomeKit par exemple, qui est la norme de Apple.
Bah, ce sera pas Google Home, ce sera l'appareil Nest qui va être compatible complètement HomeKit, enfin tu vois un truc comme ça.
Ouais.
Je pense que avoir Google Home ou HomeKit ou je sais pas quoi, Amazon Prime, tout ça, en fait c'est ça qui est chiant, c'est qu'aujourd'hui tu dois paramétrer différemment tes produits en fonction de l'application que tu tiens, et ce serait bien de pouvoir avoir un protocole commun. Tu vois, je passe de l'un à l'autre, j'ai juste à cliquer sur un bouton, transférer mes données et le langage de il fonctionne quoi. Bon, même s'il y a de plus en plus de produits compatibles avec tout ça en même temps, mais il y a encore des produits que tu achètes qui sont réservés uniquement à Google ou à Apple. Ouais. Ça arrive, surtout les produits chinois. Mais voilà, ça sera plus simple pour tout le monde et quand c'est simple, c'est bien.
Ouais. Encore faut-il que ça se passe. Mais bon. C'est mieux que rien. C'est mieux que s'il disait non, on n'a absolument aucun intérêt à travailler avec les concurrents et on va continuer à développer notre norme de notre côté. Bon, on va dire que là, au moins, ça nous permet d'espérer un petit peu.
On en a fini, Thomas, tu vois,
jusqu'au bout. Ouais, il est temps. Tu vois, là, il est 1h du matin, ici.
Ouais, je suis désolé.
Et il faut que j'aille me coucher parce que je me lève demain. Mais non, mais c'est toujours un plaisir de discuter avec toi de Chromebook. Ouais, je suis désolé si ça s'entend dans ma voix que je suis en train de m'endormir. Et puis toi, c'est bon, ça y est, t'es de bonne humeur. Je t'ai fait lever tôt, donc il n'y a pas de raison, hein, chacun son tour.
Ouais, c'est bon, là, je vais aller me prendre mon café, mon petit-déj, et puis voilà, quoi, c'est cool.
Ça marche.
Non, c'est cool, merci juste avant Noël d'avoir enregistré. C'est un beau cadeau pour moi, et j'espère pour tous nos auditeurs.
Pour moi aussi, et ouais, exactement.
Bon, c'est... Je rebondis juste sur une chose. Donc, c'est KB Show est entièrement financé par un financement participatif sur Tipeee. Si vous aimez ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on dit pas, nos coups d'éclat, nos prédictions et compagnie, n'hésitez pas à aller sur Tipeee pour mettre 1 €, 10 €, 100 €, 1 000 000 € par mois, par épisode. Non, on fait pas par épisode, on fait par mois, c'est déjà pas mal. Et accompagner nos tipeurs déjà actuels que je remercie vraiment beaucoup. Il y en a, ça fait plus de 36 mois qu'ils nous suivent quand même.
Pas mal.
Sur Tipeee.
Pas
mal. Donc, merci à eux. Ils se reconnaîtront. Il y en a beaucoup qui ne nous suivent plus, mais parce que leur carte bancaire est plus à jour, pour info. Donc, si jamais vous avez changé de carte bancaire en cours d'année, n'hésitez pas. Si vous nous aimez toujours, faut nous aimer. Aimez-nous. Si vous nous aimez toujours, n'oubliez pas de mettre à jour votre carte bancaire sur Tipeee. Et puis, si vous n'avez pas envie de subventionner le CKB Show, vous pouvez parler de nous sur les réseaux sociaux. Un petit like, un petit coucou CKB Show, comment vous allez? Ça nous fera plaisir. Un petit joyeux Noël CKB Show, ça nous fera plaisir aussi. Enfin, en tout cas, à moi. Et puis, moi, je vais vous laisser. Ah non, je ne vais pas te laisser. On se retrouve où, Thomas?
Ah, bah, sur Twitter, moi, on me retrouve sur Twitter, donc @letargicpanda sur Twitter, voilà. Et puis aussi le CKB Show et aussi sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous et ckbshow.fr aussi pour retrouver toutes les émissions et les notes de cette émission qu'on est en train d'enregistrer.
Et si vous ne suivez pas sur un lecteur de podcast, vous pouvez faire ckbshow.fr/go et automatiquement, ça ouvrira le lecteur compatible avec nous. Donc, normalement, sur tous les appareils, vous pouvez nous écouter même si vous n'avez pas téléchargé l'application. C'est beau, ça, non?
Voilà, exactement. Ouais.
Sur ce, je vais te souhaiter une agréable nuit. Passe de beaux rêves.
Ouais, ça marche.
Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne année parce qu'on ne va pas enregistrer non plus d'ici là. Et un joyeux Noël. Ho, ho.
Allez, à bientôt. Joyeux Noël à tous. We'll be right back.